Bonjour à tous. Lundi, merci beginner, j'arrive. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. J'espère que vous avez eu de beaux moments, une belle météo. La santé, les virus circulent, on en parlera cette semaine d'ailleurs. Non, j'ai pas attrapé une petite gastro ce week-end moi, mais je vous passe les détails. Ouais, on va passer les détails. Ça va ? Bien ? Je vois une bonne ambiance dans le chat. Ça te fait rire, Sugar ? Ouais, moi pas trop. Saloperie. Salut. J'ai vu qu'il y avait une Hélène dans le chat qui fêtait son anniversaire. Tu voulais jouer Archero. Ah, du coup, j'ai pas mal joué à Archero, ouais. Je suis fort à Archero. Je me demande si ça va pas être mon principal contenu jeu mobile. Hein. J'ai découvert ça grâce à mes enfants. Je leur ai dit faut pas jouer à ces jeux. J'y passe ma vie maintenant. Il y a un monde où ce jeu mobile, Archero 2, hein, devient mon principal contenu, quoi. Salut Aquarelle. Merci pour le 5e mois. Merci Beginner, merci pour le 24e mois. Merci Tom Tom San pour le 27e mois. Merci Fabricadon. J'ai vu ton message, ça y est. Il faut que je trouve le temps d'y répondre. Merci pour le 4e mois. Merci Romingue pour le Prime. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire Hélène. Ça nous fait quel âge? Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais mettre un peu de chaleur. Réchauffer la lumière un petit peu. Fais voir. Ah bah, c'est chaud. Ah, c'est déjà... ah, c'est au maximum déjà. Ah non, c'est juste que j'ai mauvaise mine. Ok, d'accord. Vis ma vie de quand tu dis tiens, j'ai pas une super bonne mine, je vais réchauffer un peu la lumière. Ah mais on est déjà au maximum de la tricherie. Et en fait, t'es juste malade. 58 ans. Bon anniversaire, Alain. Bon anniversaire. Que souhaitez-vous boire? Quel est ce sondage? Il y a un sondage en cours. Oh, c'est mignon. Il y a un sondage. Que souhaitez-vous boire? Un café, 51%. Non, c'est Team Café ici. Hein. Un thé, 13%. Un Red Bull, 6%. Un chocolat chaud, 30%. Un mousseux pas frais, 3%. Ok. Je vais bien. J'ai pas streamé hier soir. Parce que j'avais une... D'abord, ma déclaration de TVA à préparer. Et puis, qu'est-ce que c'est long. C'est pas compliqué, mais c'est long. Et puis aussi, il y a trois gros streams à préparer cette semaine qui vont nous emmener dans plein d'endroits différents. Un thé à la pêche. Un beau radius cassé. Comment on fait, Laurie, pour se casser un radius? Jeudi 14h, ouais, il y aura MVP, et vendredi il y aura le Grand Palais, le Figaro, et demain on aura une spécialiste en santé publique qui vient nous parler de l'importance des gestes barrières en fait pour se protéger un petit peu des virus dits hivernaux qu'on peut trouver d'ailleurs parfois le reste de l'année aussi. Hein. On appelle ça aussi notamment les IRA, les infections respiratoires aiguës. Pour se protéger soi et pour protéger les autres. Ouais. Bon, moi, je suis en plein dedans, ce moment. Ouais. Donc, live en distanciel. Non, mais en fait, je dis gastro, mais je pense que j'ai fait une intox alimentaire. Je crois que j'ai cuisiné ce week-end et j'aurais pas dû. Voilà. Vous voulez tout savoir. VRS, on parle de VRS, ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, ouais. Une émission pour les hypochondriaques. Non, une émission pour dire aux gens, même en bonne santé, que en fait, quand ils ont un petit virus ou un petit soupçon de quelque chose, les gestes barrières, on en parlera demain, c'est pas moi le spécialiste, se laver les mains, porter le masque quand on n'est pas bien, aérer les pièces, ce genre de petites choses comme ça, c'est se protéger soi, mais c'est protéger les autres aussi. Ça diminue la circulation du dit virus. Et donc, même si toi, t'es en pleine forme et t'es dans la fleur de l'âge, tu peux du coup contribuer à protéger ceux qui ne le sont pas. Les nourrissons, les personnes âgées, les personnes immunodéficientes, c'est ça, etc. Parce qu'on les a découverts pour beaucoup pendant la crise sanitaire, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point... je vous fais tout le stream de demain. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, ces gestes barrières qu'on a un peu appris pendant le Covid, en fait, il faudrait finalement... immunodéprimer, ouais, plutôt ça, ouais. Il faudrait, en fait, les poursuivre.
grippe, Covid, VRS, etc. Et cette semaine, il y a MVP aussi, ouais. Alors, attendez, je vous fais le programme. On va faire la revue de presse tous les matins. Tous les matins de cette semaine, lundi, vendredi, 9h, 12h, 10h, 13h, dans ces eaux-là, la matinée tienne. Ok, ça c'est tous les jours, comme d'habitude. Le samedi, samedi après-midi, il y aura le samedi des bonnes nouvelles, une revue de presse un peu spéciale avec toutes les bonnes nouvelles que j'ai pu trouver dans l'actualité de cette semaine, histoire de se remonter un petit peu le moral, après toutes les mauvaises que je vous ai rapportées du lundi au vendredi. Ok, ce sera la sixième revue de presse. Du gaming le soir quand on pourra, peut-être un peu moins cette semaine parce qu'il y a du coup pas mal de choses. Bonjour Samuel, j'ai vu l'info quelque part qu'il faudrait en moyenne 15 heures pour lire le monde en entier, donc ma question c'est comment faut lire un journal. 15 heures? Alors des heures, oui, 15, ok. Oui, 15 en le faisant, oui, remarque, oui, de manière attentive et oui. En fait, moi quand j'ouvre un journal, je lis en diagonale, c'est-à-dire que je vais lire les papiers qui m'intéressent. L'actu, c'est bien hein, de se tenir informé, mais ça doit être un plaisir aussi. Et donc moi, ça me paraît énorme, non, pas tant que ça en fait, hein. Pas tant que ça en fait. Si tu lis tous les articles, mais en essayant vraiment de les comprendre, après 15 heures, après ça dépend de ton temps de lecture, quoi. Donc moi j'ouvre un journal, je passe en revue tous les articles, je vais lire les par quotidien, par journal, les 3-4 articles qui m'intéressent le plus, hein, tu vois, pour moi. Et puis après, si j'ai le temps, je vais en voir d'autres. Puis aussi des articles dont je me dis, tiens, ça je connaissais pas ça. Après, c'est la curiosité qui joue, quoi. Mais plusieurs heures, c'est sûr. Le Monde, c'est combien de pages, Le Monde? Le Monde, c'est combien de pages? Ah, vous l'avez pas. Attendez. Si je fais ça, vous l'avez. Ouais, c'est ça, je comprends. Le Monde, c'est 38 pages. Moi, je dirais 4-5 heures, non, plutôt, non? Après, je lis très vite. C'est bon, ce seul truc que je fais bien, c'est ça, moi. Donc, le programme de la semaine. Lundi, vendredi, ok. La revue de presse le matin. Samedi, le samedi des bonnes nouvelles, le samedi après-midi. Demain, en fin de revue de presse, à partir de 11h, on aura une médecin, une spécialiste de santé publique qui viendra nous parler de l'importance des gestes barrières. Voilà. Face au virus de l'hiver, aux infections respiratoires aiguës. Jeudi, on a MVP. Vous allez me dire, MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Normalement, c'est le mercredi après-midi. Là, ce sera jeudi. Pourquoi? Parce qu'on sera en direct de Média en scène, qui est un grand festival, salon, je sais pas comment dire, en direct de la maison de la radio depuis plusieurs années déjà sur l'évolution des médias, de l'information. Plein de conférences, voilà, nous on fait un MVP spécial là-bas sur les métiers des médias, le métier du journalisme, voilà. Et puis de l'évolution aussi de la manière dont on informe. Et on a plein d'invités, il y aura Gaspard G, il y aura plein de gens, ça va être super sympa. Donc ça c'est en direct de la maison de la radio, MVP jeudi 14h, et le lendemain 14h, très sympa aussi, les 200 ans du Figaro, 200 ans du Figaro, 14h aussi, au Grand Palais. Il y a une grande exposition sur les 200 ans du journal, stream IRL avec Joe et son équipe, hein, des caméras, des micros, veux-tu, en voilà, pendant 2-3 heures, et 8 invités. Ouais, 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 ouais. Voilà la super production. Tu vois Cécile B2000? Tu vois Bénure? Voilà. Avec toute l'équipe de Joe, c'est ce que je disais, Camille. Ouais. Et donc, MMG me demande est-ce qu'il y aura une revue de presse le matin. Donc, je répète, il y aura une revue de presse tous les matins. Ouais. Cette semaine. Et puis samedi aussi. Donc, peut-être que le gaming prendra un petit coup à la tête cette semaine. Quelle folle semaine. Ouf, folle, non. C'est des trucs sympas, en vrai. Ouais. Je vois que ça parle geste barrière. Chez moi, c'est régime autoritaire. Si pas de lavage de main en rentrant de quelque part après les toilettes avant de manger, je me fâche. Oui, bah oui, oui. Mais on a appris ça, en fait. Hein. Ah, c'est pas mal, ça. Cifre Gear. Pour la revue de presse des bonnes nouvelles, l'augmentation de la fréquentation des musées du patrimoine pour 2025. Je l'ai pas vu, ça. Ouais. Les gens qui vont au travail avec une mine bien malade me disent ça s'assoue. Et quand tu demandes si ça va, ils te répondent ouais, ça va, juste la gastro ou la grippe, je vous hais, restez chez vous avec vos microbes. Bon, on parlera de tout ça. Ouais. Restez entêté quand vous êtes malade, dit Sugar. Moi, je suis un peu entêté tous les jours. Hein. Enfin, d'ailleurs, je suis entêté et entêté, mais ça, c'est parce que je suis breton. Merci Soulbur. Merci Ajrekov. Merci Forvel. Merci MQDeln. Merci mon gâtre TV. C'est une pluie de sub. Hein. C'est une pluie de sub. J'ai emmené les enfants à l'école ce matin. Et sur le, c'est mon petit plaisir. Sur le retour à la boulangerie, je prends un café crème. Vous dites ça comme si tout le monde avait le choix. Pierrot El Fuego. Alors pour le tété, tout le monde ne peut pas être entêté. Voilà. Mais quand t'es malade, de toute façon, tu prends un arrêt maladie, non? Je sais pas. Il y a Walco qui dit mon patron refuse le. Attendez, petit débat. Mon patron refuse le tété quand on est malade. Malheureusement, pas le choix. On doit aller à l'open space avec nos maladies. Mais quand t'es malade, tu prends pas un tété. Tu prends un. T'es en arrêt maladie, non? Vrai débat. Comment ça, pas forcément? Ah, parce que tu perds les jours de carence. Quand le patron te met la pression sur le nombre de maladies. D'accord. L'arrêt maladie est freiné par les jours de carence. Avec la carence, maintenant c'est chaud de s'arrêter. Donc on va au travail avec ces virus. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on, alors comment on fait alors? Donc ça veut dire qu'en ce moment, donc ça veut dire que là on a une logique économique que je comprends bien, mais qui vient s'opposer à une logique sanitaire alors. En libéral, les gens s'arrêtent jamais presque, dit Yubi. Mais alors comment on fait du coup? Là on a un conflit entre deux logiques, une logique économique et une logique sanitaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de râler en disant, et je peux comprendre, moi les gens qui me toussent dans la gueule le matin, je leur demande si ça va, ils me disent ouais ça va, juste une gastro, une grippe, je vous hais. Et puis la moitié du chat qui me dit ah ouais, moi quand je suis malade, je vais au boulot quand même parce qu'il y a les jours de carence. Comment on fait? Dans mon usine, quand les gars sont seuls à faire tourner la ligne de prod, on leur met une bonne pression pour revenir bosser, dit Amigra. Pas forcément. Alors, elle buton 25. C'est intéressant le débat qu'on a ce matin. J'en suis le meilleur exemple aujourd'hui. Je suis malade à crever. Le chef m'a dit ok pour le TT. Sinon, j'aurais pris un arrêt maladie, pas de jours de carence. Et je travaille donc pas de perte de production, tout le monde est content. Oui, mais toi, tu peux être entêté, Buton. Il y a des gens qui peuvent. Dans certains métiers, tu peux pas être entêté. Par exemple, dans l'industrie. Ouais. Là, les gens vont au travail, mais ils sont malades parce que les premiers jours sont pas payés et ça fait un sacré trou dans la raquette, dit STTV. Ok. Et donc, comme le dit Sassou, on propage encore plus le virus et ça peut mener à une saturation des services sanitaires. Bah, c'est peut-être une question qu'on posera à notre médecin demain, ça. Hein, je suis en alternance avec 900 euros par mois, me dit Walcou, c'est juste impossible de perdre 3 jours de carence quand je suis malade, donc pas le choix. Merci aux petites pockettes pour ton message qui me touche vraiment, qui me fait vraiment plaisir. Je vais pas le lire à haute voix parce que je vais rougir, mais ça me touche vraiment fort. Merci Ticlem. Ah ouais, c'est très intéressant. Je vous lis, hein. Yumi Clumsy, moi ma patronne me permet full travail, elle est cool. Bon, ce que nous dit Yumi Clumsy aussi, c'est qu'elle est sa propre patronne puisqu'elle est à son compte. Donc, ok. 3 jours de carence, me dit Clarambeau. Pas de médecin, SOS médecin saturé qui ne prennent plus de patients, c'est compliqué. Alors, c'est très intéressant. Bon, après, je mettrai un peu. Je ne veux pas mettre notre invitée de demain en porte-à-faux parce que, elle est médecin. Elle a un discours sanitaire à porter. Et là, on lui oppose une logique économique et sociale, finalement. Donc, elle n'aura pas forcément la réponse, tu vois. D'ailleurs, elle viendra plutôt porter le message de l'importance des gestes barrières. Je crois, je n'ai pas prévu de l'interroger sur. Parce que poser des questions sur un sujet comme celui-ci, mais à quelqu'un qui n'est pas en responsabilité sur qu'est-ce qu'elle y peut, elle, tu vois, du système des carences, tu vois. Je l'ai montré à mes enfants, me dit Samus, à propos des gestes carences, ils ont un peu mieux compris pourquoi c'était important de se protéger, de protéger les autres. Salut, Royce Le Barge. Eh, c'est un joli pseudo, hein. Merci, merci. Comment je prononce? Guin? Guin? Comment je dis? Merci pour ton soutien. Merci Dadacoin. Merci Apomuse. Merci Elisa. C'est la fête du sub. Merci Dro. C'est la fête du sub. D'ailleurs, je pense que ça a été le seul point positif de cette période Covid. Fabricadon, les gestes barrières, peut-être trop vite oubliés malheureusement. Déjà, si tout le monde mettait le masque. Tousser dans son coude, se laver les mains, même si malade au travail, ce serait un bon début, dit Silcarius. On peut peut-être se mettre d'accord là-dessus, ouais. Sinon, il y a Dupignol qui propose cette solution. Mettre des salles au travail, tu crées des salles de quarantaine au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui portent encore le masque malade? Moi, je mets le masque quand je suis malade maintenant. Tu vois, au travail, on crée les salles de quarantaine et on met tous les malades dedans. C'est pas mal ça. Moi, je mets le masque quand je suis malade maintenant. C'est un truc que j'ai gardé du Covid. J'ai plein de masques à la maison. Je mets. Ouais. J'ai un masque de catch notamment que je mets. Ouais, c'est vachement intéressant. De petit échange d'intro de revue de presse là. Justement, si on va au bureau malade, les gestes barrières sont encore plus importants, donc c'est good. Ouais. Et puis stop la bise. Ouais, c'est vrai, stop là. Hors proche, dit Ticlem. Ouais, on fait plus trop la bise, c'est un truc d'avance. Hein. D'ailleurs, parmi les gestes barrières, c'est ça, et c'est éviter les embrassades aussi. Les hugs. Les French kiss aussi avec les collègues. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne. Je ne sais pas si les médecins le donnent, ça. Les câlinades. Oh. Petite câlinade. Les French kiss, les gros patins aux collègues le matin en arrivant au bureau. Moi, je dis non, par exemple. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais je pense que. Merci Zéphyr! Perso, mes collègues viennent au bureau malade, tout le monde là-bas veut absolument serrer la main. J'étais malade 4 ou 5 fois en 2025, alors qu'en général, c'est une fois par an. Ça me paraît dangereux de mettre des gens avec maladie ensemble s'ils ont un système immunitaire pas top. Je pense, Vaumignon, que c'était une blague. Alors, je n'ai pas insisté assez, mais l'histoire des salles où on mettait tous les malades ensemble au travail, c'était une vanne en fait. Putain. On a peut-être dû le préciser, quoi. C'était une vanne du viewer, et du coup, c'était une vanne aussi pour moi de le reprendre. Les team building partout, stop aussi. Ouais, aussi, ouais. Et ça existe, ça, les team building partout? Parce que je pense que ça aussi, c'est une mauvaise idée. Hein. Je pensais que t'étais sérieux, mais sérieux, les gars? Ah, bah non, on fait pas ça. Ah bah non, on fait pas ça, non, non, on met pas les malades ensemble dans une entreprise, bah non. Non, c'était une vanne. C'est pourtant souvent une bonne idée de regrouper les gens par catégorie dans les salles dédiées. T'arrives le matin. Bon, faut une grosse entreprise, hein. Faut une grosse entreprise quand même. Donc là, t'as la salle, ça c'est l'open space dégrippé. Ok? Voilà, c'est la salle G. Là, c'est l'open space pour les Covidés, là. C'est la salle C. Alors, chacun a ses toilettes, sa machine à café, ses ordis, bien sûr. Là, t'as la salle VRS. J'ai découvert ça récemment, là. Virus respiratoire, je sais plus quoi. C'est la salle V. Là, alors attention, là, alors cette, là, la salle là, elle est fournie avec une pince à linge à mettre sur le nez. C'est la salle G, c'est la salle gastro. Ouais. Et juste à côté, pour les moins chanceux, t'as la salle D pour quand ça part vraiment en diarrhée, quoi. Non, en vrai, j'y crois pas. Il y a 2G? Ah, il y a grippe et gastro? Ah ouais. On fera une salle D diarrhée alors. Pour les gastro. Ouais, je suis pas sûr que ce soit idée du siècle en vrai. Hein. C'est-à-dire qu'il faut déjà faut 4 ou, faut au moins 4 ou 5 salles. Hein. C'est pour ça que j'aime. Pourquoi tu aimes Twitch? Bah, pour ça, pour ce genre d'échange un peu surréaliste, c'est ça qui est cool. Hein? Hein? Quand je travaillais sur France Info, j'ai beaucoup aimé travailler sur France Info. On racontait pas trop ça à l'antenne, hein, les salles. Tiens, la salle diarrhée, tout ça. Je suis belge et le surréalisme, je connais bien. Oui. Me disent bon cœur. Trop mignon. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vois qu'il y a une bonne ambiance dans le chat, ça fait plaisir. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tous les matins de cette semaine, il y aura de la revue de presse. Voilà. Et c'est la première. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, pour le sommaire? Vous avez vu que j'ai mis le sommaire à gauche. Avant le sommaire, il était là. Hein, vous avez remarqué ou pas? Pas un mot. Je change totalement la DA de cette chaîne. Pas un mot. Personne ne dit rien. Hein, c'est mieux comme ça? Sugar? Voilà. C'est aussi parce que Lucie qui fait les clips pour TikTok, à partir de mes streams, m'a dit ah bah c'est mieux que mets-le à gauche parce que ton super beau sommaire là de Boubou, il est magnifique, mais. Il est magnifique, mais du coup, quand je fais les clips, on voit que ça. Tu vois. Donc vas-y, mets-le à gauche. C'est plus lisible en plus? Ok, d'accord. Ouais, grande révolution artistique, ouais, Light Chin, ouais, je suis à fond là. Merci pour Danirio. Merci Carole CGM. Merci. Merci encore Zephyr. C'est quoi cette pluie de subs ce matin? Ah, c'est plus lisible. Est-ce que tu as été aidé par quelqu'un pour prendre cette décision? Ça peut venir qu'on a un réel de cinéma. Ouais, j'ai demandé un devis, en fait, à un copain réalisateur. Il m'a pris cher, hein. Il a essayé là, il a essayé là, il a essayé là, t'es pas convaincu là. Il a essayé là, il a essayé là, il a essayé là, comme ça là, là sur le chat là. Là ça me plaisait bien sur le chat. Là j'aimais bien. Là, c'était, je trouvais que ça faisait des streams plus apaisés là. Voilà. Et puis finalement il m'a dit. Tiens, on va le mettre là. Ma pris cher, par contre. Merci Moulbit. Merci Matou. Merci Matoutou. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Bon, on y va? J'ai 27 minutes d'intro. On est cool. On est court. On est cool. On est court. J'ai votre go pour le sommaire? Hein, ce go marquera le début de la revue de presse pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce qu'en podcast audio, il n'y a pas le bonjour, ça commence au sommaire. Hein, j'ai votre go, ok. 2000 boules, ouais, ça m'a pris. Comment ça, vous savez que ça m'a coûté 2000 balles? Je vous ai dit ou pas? Je n'aime pas trop parler d'argent, moi. Je vous l'ai dit? Ça m'a coûté 2000 balles. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne, 5 ans qu'on lit les journaux tous les matins sur Twitch, c'est en replay sur YouTube, à J plus 1 c'est en replay tout de suite sur Twitch, c'est en replay, c'est en podcast audio depuis la rentrée et on en est très heureux. Sur toutes les plateformes de podcast, c'est posté par Mathieu à partir de 15-16h tous les jours. Donc là cette revue de presse qu'on fait ce lundi matin, merci d'être là sur Twitch, elle sera en podcast à partir de 15-16h cet après-midi. Pour parler de quoi? On va commencer par le sommaire, je vous dis en quelques minutes. Même si je traîne parfois, l'essentiel de l'actu, pour que ceux qui n'ont pas 2-3 heures à nous consacrer ce matin aient quand même l'essentiel de l'actu. L'Iran, comment ne pas parler de l'Iran ce matin, c'est la une du Parisien. La rue défie les mollahs, moi j'ai titré « Le peuple défie le régime ». Plusieurs articles, plusieurs dossiers ce matin dans la presse sur ce qui se passe en Iran, dont on a déjà parlé ici bien sûr, mais je trouve que le dossier du Parisien est particulièrement bien fait, il est clair. Le Parisien qui a écrit « Malgré la répression qui s'abat sur les participants, les manifestations continuent chaque jour dans tout le pays, ciblant de plus en plus ouvertement le régime islamique, le régime des mollahs. Hein, » au début c'était l'étincelle, ça a été la hausse des prix, l'inflation, la baisse vertigineuse de pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, les manifestations, elles ciblent le régime, une révolte à huis clos et une révolte réprimée, hein, dans la violence, dans le sang. Hein. On s'interroge sur le bilan d'ailleurs parce que Internet est coupé dans le pays. Hein. L'héroïque soulèvement d'un peuple, 2 semaines après le début, ça fait 2 semaines que ça dure, de la mobilisation contre le pouvoir, les manifestants ne décolèrent pas, les ONG craignent un massacre en cours parce qu'on a très peu d'informations fiables sur ce qui se passe actuellement en Iran, notamment sur le nombre de morts dans ces manifestations. On lira ces 2 pages. Voilà, Internet coupé. En Iran. Dans le Parisien. Premier sujet. On lira aussi dans le Parisien, parce c'est intéressant parce que le Parisien, vous savez, c'est pas... c'est un journal très... assez généraliste, assez complet, hein, qui peut faire sa une sur le foot, comme ici sur l'Iran. Et là, on a quand même 4 pages sur l'Iran, dans le Parisien, je trouve ça intéressant. Et avec cette question, page 4, sur est-ce que Trump, le président américain, donc, pourrait être tenté de porter le coup de grâce au régime iranien. Merci Renan pour le prime. Le président américain mettra-t-il à exécution ses menaces de frapper très fort l'Iran si le régime continue à réprimer la fronde populaire? Pour l'historien Clément Terme, il ne faut rien exclure. De toute façon, avec Trump, il ne faut jamais rien exclure. Je crois que ça peut marcher pour tous les sujets. Alastair demande, c'est quoi cette coiffure? On ne juge pas, c'est trop facile, la coiffure de Trump. Vous qui n'écoutez en podcast audio, par contre, vous ratez quelque chose. Ah, vous ratez quelque chose, effectivement. Il y a un petit coup de vent là qui soulève la mèche du président américain. Peut-être sur le point d'embarquer à bord d'Air Force One, on n'a pas le contexte, mais ça lui donne un petit côté, je sais pas comment dire, un petit côté, le chat, vous auriez un petit côté quoi, la banane, un petit côté Elvis. Oh, allez, oui. Elvis Presley, ok, d'accord, il y a Elvis qui se retourne dans sa tombe. Alors c'est vrai que le président Trump fait beaucoup l'actualité, on a beaucoup parlé du Venezuela ces derniers jours, du Groenland, le Figaro consacre sa une au Groenland, aux intentions, aux ambitions de Trump concernant ce territoire qui est administré aujourd'hui par un pays européen, membre de l'OTAN, vous le savez, le Danemark, le Groenland. Et le Figaro se penche donc assez longuement sur les scénarios envisagés par Trump pour se saisir du Groenland, avec notamment une explication des raisons de l'obsession du président américain pour le Groenland. Bonne question. Pourquoi Trump veut à ce point faire du Groenland un territoire américain? Question-réponse dans le Figaro. Et très belle une de La Croix, regardez, sur le même sujet. Regardez comme c'est beau. Avec ce cordon, cette corde qui est en train de se rompre, qui ne tient que par un fil entre les États-Unis et les Européens, l'Union Européenne, l'Europe qui est tétanisée sur ce sujet du Groenland. Hein, les condamnations des ambitions américaines ont été très timides. Hein, prise au dépourvu, l'Europe cherche les moyens de contrer les menaces sur le Groenland à Donald Trump qui ne fait plus grand cas des alliances historiques. Hein. On a un édito très intéressant sur Trump, sa vie, son œuvre, à l'intérieur des États-Unis comme à l'extérieur, et un papier de fond sur Groenland, pourquoi l'Europe n'ose pas défier les États-Unis. Et même ces leviers, très intéressant, que l'UE ne saisit pas face à Trump, c'est-à-dire que La Croix nous explique que l'UE pourrait faire des choses, voilà, et nous liste les mesures que pourrait prendre l'Union Européenne pour un petit peu freiner les ardeurs de Trump concernant Groenland, mais ne prend pas ses décisions. Voilà, c'est très intéressant. Ah, actualité française! Le procès en appel de Marine Le Pen débute demain, si je ne dis pas de bêtises, mardi. Voilà. Il y en a dans tous les journaux ce matin. Ouais, bah, et pour cause. L'issue de ce procès en appel va déterminer de savoir si Marine Le Pen peut ou pas se présenter à la présidentielle de 2027. Donc ça ne concerne pas que Marine Le Pen, ça concerne la présidentielle de 2027. Pourra-t-elle briguer l'Élysée, demande le Parisien. C'est le procès de l'affaire des assistants parlementaires européens. Le procès en appel de Marine Le Pen, chef de file du RN, jugé aux côtés de 10 autres prévenus qui ont contesté leur condamnation en première instance, puisqu'elle a été condamnée en première instance, elle a été jugée inéligible. Donc s'ouvre demain avec un enjeu, sa participation à la présidentielle de 2027. Voilà. Donc le dossier du Parisien, vous savez, les journaux sont plus ou moins bien aspirés, c'est comme nous. Il y a des Samuel Etienne en forme parfois, puis Samuel Etienne moins en forme. Je trouve que le Parisien est plutôt en forme ce matin, on a vraiment de très bons articles, je trouve. Le journal nous détaille notamment la nouvelle stratégie de défense de Marine Le Pen. De toute façon, elle s'est déjà faite grand remplacer par Bordello, dit Mon GM Hong. Alors, c'est pas Bordello, hein. Ah, pas du tout. C'est Bardella. Tu t'es trompé de voyelle. Birdili non plus, Burdulu non plus. Non, qu'est-ce qu'il y a comme. C'est Bardella. Pas Bordello. Berdélé, non. Berdélé, ça ferait un peu joueur de foot. Ah, jeu de mots. Excellent. Nous sommes au prime de l'humour. Ok, donc on se penchera là-dessus. Oh, 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 oh les coquins libés. Alors, regardez, le choix d'une photo, c'est important. Dans le Parisien, elle est. Bon, la photo, elle est plutôt. Je crois son avantage. Photo du Parisien, dynamique. Combattante, assez élégante, voilà. Et puis, Libé, les coquins, c'est pas la même photo. Hein. Alors, je vais la décrire hein, pour nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Dans le Parisien, on a eu une photo, manifestement, elle est au tribunal. Là, et puis, elle est plutôt élégante, plutôt dynamique. Photo prise en contre-plongée, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'elle est assez grande et tout, assez élancée. Puis, alors, Libé, eux, ils nous ont fait un gros zoom sur le visage de Marine Le Pen. Ça commence aux sourcils, ça finit à la moitié du menton. Voilà. Qui est pas forcément hyper flatteur, quoi. Voilà. Mais bon, le choix d'une photo est un choix éditorial. Voilà. À mon avis, au service photo de Libé, ils ont bien dû se marrer. Ils ont dit, allez. Il y a la rédaction qui nous demande une photo de Marine Le Pen pour mettre en une, pour illustrer ses déboires judiciaires. Allez, qu'est-ce qu'on met comme photo? Oh, la tête à André le géant. Alors, c'est une rêve de vieux, André le géant, le catcheur immense, mais elle est sympa. On va te comprendre. Bon, ça, on rigole un petit peu, mais on va se pencher plutôt sur l'essentiel. Voilà, et sur quoi? Sur la stratégie de défense? Ouais, sur la stratégie de défense. De Marine Le Pen. Ouais. Pas la ref. Ah, c'est une rêve de vieux. C'est une rêve de vieux. Ouais. Donc voilà, vous voyez, cette histoire inspire pas mal vos journaux ce matin. Et en même temps, oui, ça c'est important parce que ça va quand même déterminer ce procès en appel. D'ailleurs, le Parisien rappelle précisément ce qu'on reproche à Marine Le Pen et à l'ancien FN, puisque ça date du FN, cette époque. Déterminera si Marine Le Pen et la candidate du RN à la prochaine présidentielle, ou Jordan Bardella. Alors, après, vous avez vu, j'ai mis plein de petits thèmes un petit peu pour changer, d'autres actus, tu vois. Par exemple, il y a un petit article dans le Figaro sur pourquoi l'or s'envole, le cours de l'or s'envole. Alors, ça fait un moment, hein, mais ça n'arrête pas, quoi. L'or, c'est un placement un peu particulier qui ne rapporte rien en tant que tel. Il n'y a pas de rendement, hein. Il n'y a pas de dividende comme une action, il n'y a pas un intérêt comme un livret, il n'y a pas de... etc. Voilà, c'est une valeur refuge, comme dit MMG. L'or ne te rapporte que si le cours de l'or monte, hein, mais il n'y a pas de rendement en tant que tel. Donc ça fait quelques années déjà que l'or monte très très fort. Mais la surprise, c'est que l'or continue de monter. Alors même que les marchés boursiers montent aussi. Alors en général, quand les marchés boursiers montent, l'or ne monte pas puisque c'est considéré comme une valeur refuge. Mais là, il y a un petit article tout simple dans Le Parisien qui explique pourquoi l'or monte et pourquoi l'or monte alors que les cours boursiers montent aussi. Ha ! Voilà. Et c'est plutôt lié à la faiblesse du dollar, finalement. Ouais. Est-ce que c'est une bulle spéculative, comme dit Li Yonggi? On verra ça. L'or est une valeur contre-inflative. Merci Carly TV. Alors, je suis pas sûr de d'avoir tout compris, mais je sens que tu as raison. Je sens que tu as raison. Voilà. Je sais pas si vous avez de l'or. J'aurais pu mettre ça dans la revue de presse des bonnes nouvelles du samedi, puisque désormais le samedi après-midi, il y a une revue de presse des bonnes nouvelles, histoire de surmonter un petit peu le moral. Mais ce matin, j'ai trouvé tellement de bonnes nouvelles dans la presse, oui, mesdames et messieurs, que je vous ai mises de côté pour samedi, que du coup, celle-ci, je vous l'ai laissée là. C'est la baisse de la consommation d'alcool sur long terme, voilà, en 60 ans, dans un pays comme la France, vous avez la consommation de boissons alcoolisées qui a fondu de 60%. De 60%, hein, en 60 ans. Donc ça baisse, là, vous avez les courbes, là, ici. Et du coup, face à. Alors, les Échos, c'est un journal économique, donc ils choisissent l'angle économique pour le traiter. On pourrait aussi évoquer l'angle sanitaire, c'est une bonne nouvelle pour la santé. Des Français de moins boire et pour la santé de la société aussi, puis tout ça, ça a un coût. Mais ça, on l'a déjà traité dans d'autres journaux. Et là, c'est comment les producteurs d'alcool cherchent la parade en investissant dans des boissons sans alcool, justement. Ah. Ça n'arrange pas les viticulteurs. Ah bah oui, non, forcément, oui. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Mais en Bretagne, oh là là! Oh les hé! Ça cherche les polémiques. Hein. Même en Bretagne, demande Paul Webb. Marie, baiser l'âge, je fais la même blague. Mais toi, t'as le droit parce que t'as baisé l'âge dans ton pseudo. Ouais. C'est pour ça la baisse de la natalité, on picole plus. Waouh! Yael Cringe, ça c'est un pseudo. Ah non, c'est pas Yael Cringe qui écrit ça, si. Attends. Attends, là, attends. T'es où? T'es où? T'es où? Ah, c'est Choupi! Il a changé de Choupi, hein. Choupi, dans ma mémoire, c'était un petit personnage tout mignon. Choupi, 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 Choupi. Voilà, et Choupi, il est dit, c'est pour ça, la baisse de natalité, on picole plus, et donc, du coup, on a les yeux en face des trous. Voilà. Eh ben, t'as changé de Choupi, hein, je te le dis, moi. Ok, donc on parlera de cette baisse de la consommation d'alcool. Voilà. Et puis, alors, il était temps. Vous savez que Monsieur Étienne n'a pas une culture sportive très impressionnante. L'actualité sportive, c'est pas ma passion, c'est pas... Je respecte ceux qui sont passionnés par le sport. Par contre, c'est vrai que je suis pas un grand spécialiste de sport, vous le savez, hein, dans la revue de presse. Mais je me suis dit, à un moment, il faut peut-être parler de la CAN, quand même, la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je vois plein d'articles sympas, je vois la passion que ça provoque. Manifestement, il y a un beau spectacle. Hein, et je me suis dit, bah, c'est le moment, on rentre dans les demi-finales, là. Et il y a un très beau papier dans L'Humanité qui résume un petit peu la compétition jusque-là. Oui, trois Ironman, merci Sugar. Pas déconner quand même. Hein. Voilà, ça va sonner, je vous laisse à plus tard à 12h. Ok Camille. Ok. Donc la CAN qui est la troisième compétition la plus suivie au monde. Et c'est une interview d'un auteur et journaliste qui s'appelle Charles Moukouri, qui est un grand connaisseur du ballon rond africain, et qui revient sur cette 35e édition qui va terminer en demi-finale au Maroc. Le Maroc est qualifié d'ailleurs, pas les Algériens. Ça aurait été une sacrée affiche en demi-finale, Algérie-Maroc. Mais les Algériens ont été éliminés, je ne sais pas, par le Cameroun d'ailleurs. Première CAN où les sélectionneurs des quatre dernières équipes sont africains et non européens. Merci Moms, hyper intéressant. C'est Nigeria? C'est Nigeria? D'accord. Vous voyez, hein, quand je vous dis que je ne suis pas un spécialiste de football, CQFD, démonstration, allez. Arbitrage. On reconnaît les supporters de l'équipe nationale algérienne. Robirou, ouais, je sais qu'il y a eu des. Côté algérien, on a dénoncé pour partie l'arbitrage. Mais les joueurs ont aussi dit on n'était pas dedans, on n'était pas dans le match. Et puis. Et puis, vous connaissez ma passion pour le sumo. Alors moi, peut-être pas d'ailleurs. Je ne vous ai jamais confié que l'une de mes passions secrètes, qui est liée à une. Partie de ma vie, qui est un peu secrète aussi, un peu. C'est le sumo. Je suis un grand passionné de sumo. Voilà. Et bah, c'est là, j'ai trouvé un papier dans le Parisien comme quoi la nouvelle saison de sumo débute au Japon. Voilà. Attendez, mais on est dans un monde fou quand même. Dans le Parisien, un journal, un article sur la reprise de la saison de sumo. Voilà, comme Jacques Chirac, grand passionné de sumo. Voilà. Et la bonne surprise, donc déjà c'est marrant, je trouve, d'avoir un papier dans le Parisien sur la reprise de la saison de sumo au Japon. Mais en plus, le papier est bien écrit et il explique bien pourquoi c'est un spectacle de fou, quoi. Voilà. C'est pas mal, hein? Elle est comment cette revue de presse? Cool, les obèses en string, fait le coup. Bah justement, tu ne sais pas ce que c'est le sumo. L'article, tu vois, il est mignon. Diesel, c'est un Ukrainien qui est dominant en ce moment. Alors, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est. Alors, son patronyme est japonais. Donc, est-ce que c'était un japonais qui vivait en Ukraine? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient d'Ukraine, qui est arrivé sur le territoire japonais il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps. Et effectivement, c'est l'un des très très forts, ouais. Mais après, son patronyme est japonais. Donc, moi, je suis pas, je ne sais pas si c'est un japonais qui a vécu en Ukraine ou si c'est vraiment un Ukrainien. C'est un Ukrainien ukrainien? Ah ouais, bah, donc il s'est rebaptisé alors. D'accord. Il s'appelle Aonishiki, l'Ukrainien. Ah, les étrangers changent de nom quand ils deviennent sous-motori? Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont très forts. Vous êtes très forts. Ah ouais, donc c'est un Ukrainien ukrainien? Alors, Diesel me donne l'info. Aonishi Kiarata, de son vrai nom Danilo Yavkusishin, est né le 23 mars 2004 à Vinnytsia en Ukraine. Il est professionnel de sumo depuis 2024. Ah ouais, c'est incroyable. Ah c'est vrai que quand... Ah ouais. Bon après, c'est vrai qu'on vit un certain... Non, 2024, Sugar. Pas 2004. Ah, le fait qu'il soit né en 2004, ah oui. Ah bah c'est un jeune, ouais. Quand tu vis un certain temps au Japon, après, on peut te donner un... On peut te donner un nom japonais. J'ai connu des Français qui ont passé du temps au Japon comme ça et qui ont donné un patronyme un peu japonais. Le tigre noir, ouais. Bon, alors, si vous, mesdames et messieurs, est-ce qu'il est pas bon, sa mère? C'est pas non. C'est pas Samuelu Etienne ou non, c'est Samuelu Kolotola. Ça, la légende demande, mais t'en as un patronyme japonais, toi? Samuelu Kolotola. Il est frais, mon sommaire, hein? On a beaucoup parlé de l'agriculture la semaine dernière, Escodora, tu as tout ça en replay. Pas Samuelu Chibrou, non? Samuelu Kolotola. Non, pas Samuelu Chibrotora, non. Bon, voilà le sommaire. Est-ce qu'on attaque sur l'Iran? On y va? 2 ans, Kev Stark, j'ai vécu 2 ans au Japon. Est-ce que j'ai votre go? Mesdames et messieurs. On attaque sur l'Iran, je suis pas sûr de cette phrase. J'avoue, Sugar, c'est peut-être pas la meilleure phrase, ouais. Ouais. Que ma coquine se moque de moi. Est-ce qu'on attaque sur l'Iran? Ok, Donald. Désolé, je retire cette phrase. Donc, c'est le dossier du Parisien. C'est le principal dossier du Parisien. Le Parisien, un journal qui s'intéresse beaucoup à l'actualité française et même locale, avec des pages locales sur l'actualité en Île-de-France. Mais vous le voyez, il s'intéresse beaucoup à l'étranger aussi. Qui s'intéresse un petit peu à tout. D'ailleurs, le Parisien, c'est un journal très généraliste que j'aime bien. Iran, la rue défie les mollahs. Moi, j'ai donné ce titre à cette séquence. Iran, le peuple défie le régime. Malgré la répression qui s'abat sur les participants, les manifestations continuent chaque jour dans le pays. Je crois que ça fait au moins 15 jours que ça a commencé. Voilà. Ciblant de plus en plus ouvertement le régime islamique, une révolte à huis clos, hein, puisque Internet a été coupé dans le pays. Édito d'Olivier Auguste, pour commencer, qui est le directeur adjoint de la rédaction, qui salue ce peuple iranien qualifié d'admirable. Quelle est encore l'espérance de vie de la théocratie iranienne, se demande le journaliste. Il sera hasardeux de répondre à la question. Les mollahs apparaissent plus coupés de leur peuple que jamais. Leur soutien extérieur de Bachar al-Assad au Hezbollah ont été renversés ou neutralisés. Leur menace nucléaire a perdu, au moins pour le moment, toute vigueur depuis les frappes israéliennes et américaines, si je ne dis pas de bêtises, non ? Les foudres américaines peuvent à chaque instant s'abattre sur eux, puisque Trump menace de retaper. Mais l'affaiblissement ne pousse pas forcément un pouvoir autoritaire à la raison, bien au contraire. Les intentions des dirigeants de la République islamique, les rapports de force entre eux sont difficiles à évaluer. Aucune force d'opposition ne s'impose de façon évidente si le régime vacillait. Et les précédentes révoltes, parce que ce n'est pas la première fois que les Iraniens se révoltent contre le régime théocratique au pouvoir. Et les précédentes révoltes, notamment l'admirable mouvement Femmes, Vie, Liberté, n'ont abouti qu'à une répression à chaque fois. Hein. Mortifère au sens premier du terme. Répression dans le sang. Dans un enchaînement trop habituel, les ayatollahs sont passés ces derniers jours de la fausse compassion envers les manifestants aux arrestations de masse assumées, à la violence physique et, selon les ONG, aux exécutions froides par centaines. Au fur et à mesure que les slogans passaient de la dénonciation de la vie chère à celle de la tyrannie, les autorités du pays ont renforcé l'isolement du pays, compliquant encore la collecte d'informations fiables. Des signes de raidissement, de cruauté, mais aussi de fébrilité. Alors comment, demande le journaliste, ne pas regarder avec espoir la détermination de la rue iranienne, comment ne pas souligner le courage de ces hommes, de ces femmes qui se lèvent à travers le pays au péril de leur vie, hein, il y a des morts actuellement en Iran, comment ne pas soutenir leur combat si digne et si dangereux. Ça c'est l'édito, c'est le petit billet, l'avis du journaliste, maintenant on va voir un petit peu les faits. L'héroïque soulèvement d'un peuple, c'est le titre du Parisien, deux semaines c'est ça. Deux semaines après le début de la mobilisation contre le pouvoir, les manifestants ne décollèrent pas, les ONG craignent un massacre en cours. Internet est coupé hein, en Iran, on le verra tout à l'heure, et il y a Firmus qui me dit ben, « moi je joue à WoW avec un Iranien, et il n'est pas co depuis quelques temps, alors qu'à la base il est toujours là, je comprends mieux maintenant. Internet semble totalement coupé actuellement en Iran. » Des marées humaines dans les rues, un bâtiment gouvernemental en feu, des tirs à balles réelles. En Iran, les images qui franchissent les frontières du pays se font rares depuis que le pouvoir a coupé jeudi l'accès à Internet. Mais ces vidéos, bien souvent tournées au smartphone, puis il y a quand même des images qui arrivent à sortir du pays, hein, dressent un constat, la colère du peuple iranien, deux semaines après le lancement des mobilisations, ne redescend pas et s'étend même désormais à la majeure partie du pays. Vous avez raison, certaines sources parlent de 200 morts, de 400 morts, mais certaines sources parlent potentiellement de 1000 morts. Initialement dirigé contre l'hyperinflation, une hausse des prix complètement dingue en Iran, les protestations ont ces derniers jours pris une toute autre ampleur en visant directement cette fois le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui est au pouvoir depuis 36 ans. Allant même jusqu'à scander ce peuple mort au dictateur. En réponse, celui qui fait face à un épisode de crise inédit depuis 3 ans n'a pas manqué d'appeler à réprimer les émeutiers, arguant qu'il était inutile de dialoguer avec eux. Vous avez le numéro iranien qui dit « On ne dialogue pas avec les manifestants ». Ce dimanche, le Centre pour les droits de l'homme en Iran, qui est basé à New York, a tiré la sonnette d'alarme. Un massacre est en cours en Iran. Le monde doit agir maintenant. De nombreuses inquiétudes demeurent. Alors, on en parlait dans le chat un instant sur le bilan que laisseront les manifestations. Alors que les médias internationaux, à l'exception du média qatarien Al Jazeera, sont interdits d'accès par le pouvoir. Un dernier bilan dressé par l'ONG Iran Human Rights faisait état ce dimanche de 192 morts parmi les manifestants. Des comptes qui, selon plusieurs sources concordantes, pourraient en fait s'élever à 2000 décès, s'ajoutant aux 109 membres de forces de sécurité qui, selon l'État iranien, auraient perdu la vie dans les affrontements. Depuis 5 jours, la répression est vraiment féroce, s'inquiète Karim Pazksad, qui est un chercheur, à l'IRIS, auprès de notre journal, le docteur en sciences politiques spécialiste de la région relève un mouvement plus revendicatif, plus radical que les mouvements précédents, dans un pays qui est entré dans un processus d'illégitimation du pouvoir de la part notamment des jeunes qui ne voient plus d'issue pour eux. Dans un pays où la monnaie nationale, Le rial a perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar, où l'inflation a atteint en décembre dernier 52% sur un an. Hein, les espoirs de la population semblent s'enterrer. Il est pas mal, l'article est pas mal. Le modèle par excellence de vie heureuse en Iran n'est plus possible car il repose sur la capacité à faire un foyer. Or, depuis un certain nombre de décennies, l'économie ne permet plus de faire un foyer en Iran. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est au début. C'est l'iranologue Amélie Shelly qui le dit, se basant sur le très faible taux de natalité actuellement en Iran. Conséquence, poursuit la sociologue, on a changé de modalité dans les manifestations. Auparavant, il s'agissait en règle générale dans les manifs de personnes en capacité économique de quitter le pays. Hein. S'ils devaient être inquiétés par les autorités, notamment la jeunesse issue des classes moyennes et hautes. Mais depuis quelques années, remarque celle qui échange régulièrement avec des opposants, le spectre des manifestants, des classes d'âge, des classes sociales s'est élargi avec une population qui manifeste pour autre chose, avoir une vie acceptable en Iran. Nuno écrit « La répression est effrayante, des vidéos qui semblent être prises dans des hôpitaux fuitent sur Internet et font froid dans le dos, j'ai entendu parler de ces vidéos. Oui. » Face à ce qui s'apparente à une sorte de lassitude extrême du peuple iranien vis-à-vis du gouvernement, selon ses mots, Amélie Shelly ne cache pas ses inquiétudes concernant la suite des manifs. D'un côté, la population n'a plus rien à perdre, et de l'autre, le gouvernement non plus. La population n'a plus rien à perdre, et le gouvernement non plus. Tout cela pourrait finalement durer et être écrasé dans un bain de sang. Funky Molly, ma copine est franco-iranienne, elle est rentrée en France fin décembre après un mois là-bas, juste avant le début des manifs. Pas de nouvelles de ses proches depuis plus de 4 jours. On voit juste des images terribles passer. C'est hyper stressant, merci d'en parler. Le président du pays, Massoud Pezeshkian, a tenté dimanche de rassurer sa population. Si les gens ont des préoccupations, nous les entendrons, c'est notre devoir de les écouter, de résoudre leurs problèmes. Appelant les 87 millions d'Iraniens à s'unir, mais il a également mis en garde à la télévision, le peuple ne devrait pas permettre aux émeutiers de déstabiliser la société. Voilà. Là, vous avez des manifestations de la diaspora, des Iraniens qui vivent à l'étranger, notamment en France. Hein. Et alors, ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est... au-delà du fait que les Iraniens se mobilisent à travers le monde. Je cherche le passage. Ah oui, c'est ce qui pourrait se passer ensuite. Quel pouvoir pourrait remplacer éventuellement le régime théocratique, le régime des mollahs. Alors ça soulève beaucoup de questions. Parce qu'évidemment, l'opposition est réprimée depuis toujours. Donc comment une opposition se construit quand les élections ne sont pas libres, quand les partis ne sont pas libres? Comment tu construis une opposition en capacité de diriger un pays? C'est très compliqué. Un nouveau personnage s'est ainsi invité, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran. Ça, c'est la mince, comment on dit? Les rois, la monarchie, hein, c'est ça, c'est une dynastie, c'est ça, la royauté, on est d'accord. Hein, fils du dernier Shah d'Iran, installé aux États-Unis depuis 1979, voilà. Au rassemblement parisien, par exemple, de la manif de dimanche, voilà, beaucoup prônent un retour à la monarchie et placent tous leurs espoirs dans celui qu'ils appellent le roi. Pahlavi reviendra, hurlent les manifestants qui agitent pour la plupart le drapeau de l'ancien régime impérial. Il incarne la transition. La transition veut croire une manifestante croisée à Paris. Hamid Assadollahi, qui manifestement est un Iranien qui vit en France aussi, ne partage pas du tout ce point de vue, n'a pas souhaité se rendre à cette manifestation qu'il considère justement comme trop monarchiste. Voilà. Ce n'est pas l'état d'esprit des Iraniens de sacrifier leur vie pour un homme dont la seule qualité est d'être le fils d'un dictateur, tranche-t-il en référence au dernier Shah renversé par la révolution en 79. À l'arrière du cortège, un groupe de jeunes est venu défendre une vision similaire. Vanda et ses amis rêvent d'une république non pas monarchique, hein, mais bien d'une république démocratique. À l'arrière du cortège, Donc, Vanda et ses amis rêvent de cette république démocratique, mais je ne suis pas sûr que le pays soit prêt, reconnaît cette jeune femme de 22 ans. Elle est consciente que sa vision est minoritaire en Iran, surtout auprès de la génération de ses parents, mais pour nous, une monarchie peut devenir une dictature. Parmi les raisons de manifester, si loin des rues de Téhéran, le souhait de briser le silence, on veut convaincre les puissances étrangères de soutenir le peuple iranien. C'est à Paris, ouais. Cette manif a lieu à Paris, ouais. Alors vous m'excusez de ne pas relever les blagues dans le chat sur le chat d'Iran et le chat, l'animal. Bon, là, sans faire le rabat-joie, je suis un petit peu inquiet pour le peuple iranien. Là, pour le coup, ça me semble un peu dramatique ce qui se passe. Donc, pour le coup, la liberté de blague, elle est là, mais je ne relève pas pour l'instant. Alors, Internet coupé, comment en 2026 on peut réussir à couper Internet dans un pays? Depuis 3 jours en Iran, l'ONG NetBlocks ne détecte plus aucune connexion à l'Internet mondial. Si c'est pas un des signes d'une dictature, la capacité d'un État à réussir à couper Internet, vendredi, le gouvernement en a coupé l'accès, empêchant la population de diffuser les images de la répression. Alors comment c'est possible? Depuis 2019, l'État iranien dispose d'une infrastructure Internet à l'architecture atypique. Fruit d'un travail de longue haleine, cette sorte de réseau domestique local permet de débrancher qui on veut, sans empêcher d'autres, par exemple, les banques ou le gouvernement de l'être. Tu choisis qui tu coupes. Pendant 14 ans, explique Kaveh Salamatian, professeur d'informatique à l'Université de Savoie, le réseau a été totalement reconfiguré pour être contrôlable à des degrés extrêmement fins. Au point qu'il est possible, selon le chercheur, d'éteindre Internet du côté droit d'une rue en Iran et pas du côté gauche. Ah, il y a Dodge Mabalane qui dit « Oh, c'était mon prof !» Ce qui permet à des services gouvernementaux de continuer à avoir accès à Internet, par exemple, et pas à la population. Même les appels téléphoniques fixes fonctionnent désormais de façon aléatoire, rendant extrêmement précaire l'accès aux informations. Et si quelques rares vidéos arrivent encore à filtrer, comme ce rassemblement massif de samedi soir à grâce à Téhéran, c'est grâce à Starlink, le fournisseur d'accès à Internet d'Elon Musk via ses quelques 10 000 satellites. L'ancien ministre de Trump a bien ouvert gratuitement ses faisceaux en Iran, mais bien sûr, il faut disposer d'un terminal pour se connecter au service. Or, ces boîtiers en Iran, les boîtiers Starlink, au nombre tout au plus de quelques dizaines de milliers dans le pays, sont interdits par l'État. Si tu as un boîtier Starlink, c'est en totale illégalité. Sur les réseaux sociaux, certains activistes demandent à Musk d'aller plus loin et de permettre au téléphone de se connecter directement au satellite. Pour France Humbert Vier, président d'UBCOM, société de cybersécurité, ce n'est pas sans crainte pour le régime. Pour la suite, pardon, le régime tente déjà de détecter les terminaux Starlink. Plus il va y avoir de connexion, plus ce sera facile. Malheureusement, certains Iraniens vont se faire attraper. C'est chaud, hein, comme dit Lidiz, ouais, tu m'ôtes les mots de la bouche, hein. C'est fou, hein. Là, vous avez le droit de faire des vannes, les gars. Tout à l'heure, j'ai fait mon daron là sur chat et chat, mais ça va. Ouais. Allez, gars. On n'est pas sur. On n'est pas aux 20h. Hein. Ça va. Vu l'actu, hein, de temps en temps. C'est bien de déconner. Mais là, ouais, c'est très inquiétant ce qui se passe en Iran, c'est sûr. Quelle ambition de Trump après ça, demande Marine Swim. Bah, on sait pas comme d'habitude. Hein. Est-ce que lui, il sait? Mais on en reparlera, ça, bien sûr. Mais on va en parler tout de suite, d'ailleurs, de ce que pourrait faire l'Iran. Tiens, allez, hop, bim! Qu'est-ce que pourrait faire Trump? Tout! Maintenant, on sait, maintenant, hein. Là, il est capable de tout. Voilà. Et effectivement, la tentation du coup de grâce existe. Le président américain mettra-t-il à exécution ses menaces de frapper fort l'Iran si le régime continue à réprimer la fronde populaire? Pour un historien clémentin, il ne faut rien exclure. Bon, de toute façon... Pas besoin d'être historien pour savoir qu'avec Trump, il ne faut rien exclure. C'est un chercheur, c'est un Clément Terme qui est enseignant à Montpellier. Voilà, il a publié un livre récemment, Idées reçues sur l'Iran, un pouvoir à bout de souffle. Ouais. Voilà. C'est un historien spécialiste de l'Iran, donc c'est plutôt intéressant de le lire. Je lis un petit peu. Donc, en tout cas, les informations que nous n'avions pas dans l'article précédent. Alors, j'arrive à la question qui m'intéresse. Faut-il prendre au sérieux Trump qui menace de frapper très fort le régime iranien? C'est surtout pour lui, répond l'historien, une question de principe, se positionner contre ce qu'a fait Obama. Or, Obama n'avait pas soutenu le mouvement vert contre le régime en 2009, et Obama l'avait regretté après. Hein? Il l'avait déclaré. En juin, Trump s'était dit ouvert à un changement de régime en Iran, rappelle le Parisien à l'historien. La tentation du coup de grâce existe effectivement, notamment depuis la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël, soutenue par Washington en juin dernier, vous vous en souvenez. Mais la sécurité des bases américaines au Proche-Orient peut l'inciter à une certaine prudence. Contrairement à un George Bush en Irak ou en Afghanistan, il n'est pas homme à vouloir des changements de régime. C'est ce qu'on voit avec le Venezuela, c'est-à-dire certains espèrent un changement de régime au Venezuela. Après l'opération militaire visant à capturer le président Maduro, ben, ce qu'on voit, c'est que le régime en place, il est en place. C'est l'ancienne vice-présidente qui est actuellement la présidente par intérim, et on ne semble pas prendre le chemin d'un changement de régime. En revanche, des nouvelles personnes à la tête du pays pour faciliter l'accès des Américains au pétrole, ça oui. Donc cette phrase, elle semble pas folle. Semble pas fausse, pardon. Contrairement à George Bush en Irak ou en Afghanistan, il n'est pas homme à vouloir des changements de régime, mais plutôt des opérations ponctuelles de déstabilisation. Et je ne suis pas sûr qu'une opération ponctuelle avec Israël suffirait à réorienter le régime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, Trump a déclaré à plusieurs reprises, affirmé que son pays allait frapper très fort l'Iran en cas de répression meurtrière des manifestations. Oh, wait. Manifestation meurtrière. Attends, répression meurtrière de manifestation? Qu'est-ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec la manifestante contre l'ICE là dans sa voiture. Répression meurtrière de manifestation? Ah ok. Oh, excusez-moi juste. Ça me rappelle un truc. On en a parlé la semaine dernière et on va continuer à en parler des suites de cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a quelques jours aux États-Unis, une femme, une mère de 3 enfants, a trouvé la mort dans sa voiture. Participant à une manifestation pacifiste contre les méthodes de la police de l'immigration, l'ICE, et elle était abattue de sang-froid par cette fameuse ICE. On y reviendra. Bon, on va passer au Groenland, mais je suis sûr qu'on reparlera de l'Iran demain. Aux États-Unis, c'est pas des manifestants, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai que le pouvoir américain a qualifié cette femme de terroriste, terroriste de l'intérieur. Mais on y reviendra. Je suis sûr qu'on reparlera de l'Iran cette semaine. Je vous propose de passer, si ça vous va, au Groenland, et donc toujours un petit peu de Trump d'ailleurs. Puis après, on passera à autre chose, on passera à Marine Le Pen. Heureusement que la vidéo existe, effectivement, ouais. Alors, l'Iran. Plusieurs papiers la semaine dernière pour se demander si le Groenland sera le prochain théâtre d'une opération militaire de l'armée américaine. Groenland, administré par un pays européen. Et membre de l'OTAN, le Danemark. Aïe, aïe, aïe. Alors le Figaro, il consacre sa une encore ce matin, il y a un gros papier, un gros dossier sur est-ce que Trump va le faire, comment il le ferait, que vont faire les Européens, etc. Les scénarios, c'est le papier du Figaro. Hop, il faut que je mette le sommaire dessus. Voilà. Trump veut le Groenland. Les scénarios, envisagé par Trump pour se saisir du Groenland. L'administration américaine multiplie actuellement les pressions sur le Danemark pour qu'il renonce à sa souveraineté sur le territoire. Les revendications de Trump sur le Groenland se font donc de plus en plus pressantes. Le président américain et les membres de son administration ont multiplié ces derniers jours les déclarations menaçantes, n'excluant pas de recourir à la force. À la force. C'est pas nous qui l'inventons. Ce sont eux qui le disent. Tout en appelant le Danemark à accepter une offre raisonnable. Un petit chèque. Un petit chèque. Lors de son premier mandat, il avait déjà proposé un chèque au Danemark pour racheter le Groenland. Et il repropose un chèque. Nous allons faire quelque chose au Groenland. Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'il le veuille ou non. Ce ne sont pas des propos de journalistes. Ce ne sont pas des propos d'opposants. Ce sont les propos de Trump. Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'il le veuille ou non, a dit Trump vendredi. J'aimerais conclure un accord, mais ce qui est bien avec Trump, c'est que t'as même pas besoin d'inventer des trucs, quoi. Tout est dans ses mots à lui. Je lis. J'aimerais conclure un accord, mais si nous ne pouvons pas le faire de manière pacifique, nous emploierons la manière forte. Il y a quelques années, avant qu'il arrive au pouvoir, on vous aurait dit qu'un président américain allait dire ça, mot pour mot, à propos d'un État administré par d'un territoire administré par un État européen. On vous aurait dit, arrête de prendre de la drogue. Trump a invoqué les questions de sécurité, soudain très pressantes, pour justifier ses plans. Alors ça, ce sont les propos de Trump, et on y reviendra tout à l'heure, sur cette justification de la menace russe et chinoise autour du Groenland. Si vous regardez autour du Groenland, vous verrez des destroyers chinois et des sous-marins russes partout. Les spécialistes de défense disent que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland, et c'est ce qu'ils feront si nous ne faisons rien. Ça, c'est l'argument de Trump. Nous allons agir donc au Groenland, soit de manière pacifique, soit de manière plus musclée. Il a aussi mis en doute la légitimité de la souveraineté danoise sur le Groenland. Je ne suis pas un grand admirateur du Danemark. Ils ont été très gentils avec moi, a dit Trump. C'est vrai qu'ils achètent régulièrement de l'armement américain. Mais le fait qu'ils aient débarqué là-bas il y a 500 ans ne signifie pas qu'ils sont propriétaires de ce territoire. Voilà. Du coup, Trump, lui, il veut débarquer demain. Et ce sera lui le patron. C'est mon amoureuse qui m'écrit. Oh, Wade, je l'avais pas celui-là. Il connaît Christophe Colomb, du coup. On va dire ça aux Amérindiens. Putain, je l'avais pas. Mais oui. Mais putain, oui, j'avais pas pensé. Et oui, le chat est en feu. Mais il connaît l'histoire de son pays. Ils ont débarqué avec des bateaux il y a 500 ans. Les colons. Les Christophe Colomb, du coup. Ah, c'est génial. Il faudrait qu'il aille dire ça aux natifs américains. Oh, c'est un champion. Ah, du coup, oui, je l'avais pas, bravo. Voilà, donc je leur lis la phrase. Voilà. Attends, c'est où? Je suis... Voilà. Le fait qu'ils aient débarqué là-bas il y a 500 ans ne signifie pas qu'ils sont propriétaires de ce territoire. Mais c'est ouf, du coup, il faut rendre les States aux Amérindiens, du coup. C'est chaud, en vrai. C'est notre champion, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Interrogé sur la nécessité de posséder le Groenland, alors que les États-Unis possèdent déjà une base militaire, par ailleurs, il y a un traité de défense signé en 1951 avec le Danemark qui leur accorde une large latitude dans ce domaine, Trump a estimé que cet accord n'était pas suffisant. On se défend mieux quand on est propriétaire, on ne défend pas une location de la même manière. Le mec, c'est pas un président, c'est un agent immobilier de chez Stéphane Plaza, le gars. On se défend mieux quand on est propriétaire, on ne défend pas une location de la même manière. Des pays ne peuvent pas conclure d'accords temporaires, même pas de 100 ans, ils doivent être propriétaires. Ces déclarations ont été reprises par le vice-président, Jed Evans. Les Européens, les Danois n'ont pas fait un bon travail pour sécuriser cette région, a dit le vice-président. Le président des États-Unis leur a dit très clairement, vous ne faites pas du bon travail en ce qui concerne le Groenland, nous allons nous assurer que les intérêts de l'Amérique sont défendus. Bon, c'est vrai qu'à la base, c'est un spécialiste immobilier, Trump. Hein. Donc après, il reste sur ce qu'il connaît, quoi. Des déclarations sur la possibilité d'un recours à la force par Stephen Miller, le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, qui a endossé le rôle de conseiller le plus virulent du président pour justifier ce néo-impérialisme américain, ont ajouté un degré supplémentaire de préoccupation. Qu'est-ce que dit Miller ? Personne ne va combattre militairement les États-Unis contre les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Le Congrès, la majorité républicaine, a gardé un silence embarrassé, comme si les sénateurs et les représentants avaient compris qu'aucun dispositif institutionnel ne pourrait empêcher le président de s'emparer du territoire d'un allié de l'OTAN. Certains républicains ont minimisé les propos de l'administration en mode beaucoup ne veulent pas contrarier Trump et disent qu'il ne se passera rien, que c'est du bluff. Mais en garde le sénateur démocrate Tim Kaine, mais je le réponds à ses élus, vous avez dit la même chose à propos du Venezuela et ça n'était pas du bluff. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Une fois qu'on s'est dit que ça pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Les déclarations américaines sont indiquées que plusieurs scénarios sont à l'étude. Il y a Kratos qui dit, il y a l'ICE, la police contre l'immigration américaine qui va se mettre à tirer sur les pingouins. Alors, je ne l'ai pas celui-là, mais on ne sait jamais avec Trump. Les déclarations américaines semblent indiquer que plusieurs scénarios sont à l'étude. Le premier consisterait pour l'administration américaine à s'appuyer sur le mouvement indépendantiste groenlandais pour détacher le territoire du Danemark. Hein. Jouer la carte des indépendantistes, parce qu'il y a une revendication indépendantiste au Groenland. La tutelle danoise est contestée par une partie des Groenlandais, même si le territoire bénéficie depuis plusieurs années d'une large autonomie. Merci Popo Vigno, merci Momps, merci Planetscape Sigil, merci GG Blues, merci Renen, je ne remercie personne. Malgré le fait que Copenhague prenne en charge une bonne partie du budget. En décembre dernier, Trump a créé même le poste d'un représentant spécial au Groenland, signalant l'intention des États-Unis de traiter le Groenland comme un pays distinct. Alors certains me disent dans le chat, sauf que les Groenlandais ne veulent pas d'une annexion par les États-Unis. Je vais le dire dans un instant, il y a des sondages là-dessus, effectivement. Nommé à ce poste, le gouverneur républicain de Louisiane, Jeff Landry, a fait valoir que les États-Unis n'avaient pas de visée impérialiste. C'est plutôt l'impérialisme européen qui est la raison pour laquelle le Danemark possède le Groenland. Ah, je ne l'avais pas celle-là. Il n'y a pas d'impérialisme américain en ce moment. Non, il y a la volonté des États-Unis de libérer le Groenland de l'impérialisme européen. Celle-là, je ne l'avais pas. Ok. Lors de sa visite sur la base américaine de Pituffik en mars dernier, Jed Evans, donc le vice-président, avait même déjà ouvertement appuyé les revendications indépendantistes groenlandaises. Voilà. La visite n'était pas super bien passée d'ailleurs, je crois. Voilà. Et en mai dernier, le Wall Street Journal avait révélé que les agences de renseignement américaines avaient reçu l'ordre de recueillir des informations sur le mouvement indépendantiste du Groenland. Voilà. Hein. Allez hop, la CIA dans le coup. Et sur les personnes susceptibles d'appuyer la politique américaine. Ça, c'est le premier scénario. Et on vise sur les indépendantistes. Deuxième scénario, présenté comme la solution raisonnable, c'est celle du chèque, l'acquisition du territoire. Le secrétaire d'État Marco Rubio, qui occupe également le poste de conseiller à la sécurité nationale, a expliqué que le président ne fait que rappeler son objectif de longue date d'acheter l'île. Alors c'est vrai que pour le coup, dès le premier mandat de Trump, il y a quelques années, il avait proposé de faire un chèque au Danemark pour acheter le Groenland. La pratique a des précédents. Depuis l'achat de la Louisiane à la France en 1803, les États-Unis ont régulièrement eu recours à cette méthode pour étendre leur territoire, le petit chèque. Voilà. Et dans l'histoire américaine, en fait, les États-Unis, à plusieurs reprises, ont proposé un chèque au Danemark pour acheter le Groenland. Non. Est-ce que ces scénarios qui pourrait se réaliser. Je vois très mal le Danemark accepter un chèque. Le troisième scénario, celui d'une prise de contrôle par la force. Hypothèse toujours invraisemblable pour les politiciens et diplomates jusqu'au moment où elle se réalise. Elle n'a pas été exclue par l'administration américaine. Même Trump parle d'un possible recours à la violence. Notre travail consiste à prévoir des plans pour toute éventualité, a répondu en juin dernier le secrétaire danois à la guerre, Pete Hegseth. Une telle opération ne présenterait guère d'autres difficultés que logistiques. Non, non, c'est le secrétaire américain, ça, pardon. Je comprenais pas ma phrase. Une telle opération ne présenterait guère d'autres difficultés que logistiques pour l'armée américaine et ressemblerait plutôt à un exercice grandeur nature. Les Américains sont d'ailleurs déjà présents militairement au Groenland. Ils ont une base sur place. Pendant la guerre froide, ils ont eu jusqu'à, je sais plus, une dizaine, une douzaine de bases. Il en reste une. Les quelques 60 000 habitants du Groenland, hein, vivent au bord de la mer et le contrôle du territoire dépend d'une dizaine d'aéroports, de quelques installations portuaires qui peuvent être investies en quelques heures. Il y a un dossier dans la Croix aussi. Je prends le temps parce qu'il y a aussi un article dans le Figaro sur pourquoi cette obsession de Trump sur le Groenland. Pourquoi Trump veut à ce point que le Groenland devienne territoire américain. Voilà, merci beaucoup Sassassou. Il dit, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi le Groenland... Attends, t'es où? Pourquoi les États-Unis veulent le Groenland? Enfin, les États-Unis, Trump, hein. Je suis sûr que si on demande aux Américains, je suis pas sûr que les Américains, si on demande aux électeurs américains ce qu'ils veulent le Groenland, je sais pas. À part les raisons sécuritaires discutables, est-ce que c'est une lubie? On va voir ça. Par contre, je vais allumer le chauffage parce que il n'y a pas de chauffage ici. Je vais en allumer un mini là parce que je me caille. Ami qui m'écoute un podcast, il y a 30 secondes de silence qui arrive. Ça ira mieux. Let's go. Base militaire. Navire chinois. Terre rare. Soif de grandeur. Les raisons de l'obsession du président américain Takeshi Kovacs. Merci beaucoup, tu régales. Qui m'écrit? La dénomination est audacieuse, mais elle vise à rendre l'aventure attirante.
Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est blabla, c'est joli mot. Ok, d'accord, ok. Attends, ça c'est un peu un petit passage un peu littéraire, un peu sympa. Attends, mais je suis où là?
Où est-ce que ça commence? Voilà. L'ancien promoteur immobilier, Donald Trump, serait un amoureux des cartes. Regardez la taille de ça, c'est immense. Ça devrait faire partie des États-Unis. Alors là, on a un très beau raid. On est en train de lire les journaux et on arrête, mesdames et messieurs, d'un des médias traditionnels qui est l'un des rares à avoir réussi son arrivée sur Twitch, qui est l'Humanité, hein, qui était en stream ce matin, de bon matin, si je vois l'heure, et qui nous raide. Merci, ami de Luma. Luma qu'on va lire notamment ce matin pour un excellent papier sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, parce que jusque-là, moi, j'ai pas trop suivi la CAN. Il y a deux pages ce matin dans Luma, qu'on lit tous les jours ici, sur la CAN. Merci pour le raid, c'est adorable. Merci beaucoup. Là, on était en train de... Ami qui nous rejoignait de Luma, donc là, on est... Vous avez le sommaire sous les yeux, en fait, comme ça, vous savez de quoi on parle, de quoi on parle, de quoi on va parler, de quoi on a parlé. On a parlé, bien sûr, de l'Iran... La mobilisation des Iraniens contre le régime des Mollahs, je suis sûr que vous en avez parlé ce matin avec Luma, je pense. Vous avez parlé de quoi ce matin? Là, on est sur les ambitions trumpiennes sur le Groenland. Et puis après, on va parler du procès de Marine Le Pen en appel, dans l'affaire des attachés parlementaires européens. Puis après, on va aller un peu plus vite sur les raisons du pourquoi de l'envolée du cours de l'or, la baisse de la consommation tendancielle en France depuis des dizaines d'années. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le point sur la CAN avec l'Humanité. Et pour rigoler, la nouvelle saison de sumo au Japon. Vous avez parlé de quoi ce matin, Luma? Les gens qui viennent de nous rejoindre. On était sans doute sur l'actualité internationale, non? La paix? Mais oui, mais plus encore. Suzy. Dites-moi, Et n'hésitez pas. On va, d'ailleurs, on va afficher les modos. On va afficher peut-être la. Je vais le faire. Attends, j'en ai pour 2 secondes. N'hésitez pas à follow la chaîne de l'humanité. Hop, que je vais vous mettre en haut là. Hop. Qui stream très régulièrement sur Twitch. Ça a été fait, mais tu peux le refaire. Mais pourquoi je ne l'ai pas, moi? C'est pas un shout-out, hein, c'est vraiment épinglé. Comme ça, les gens peuvent cliquer pendant un petit moment, quoi. Du coup, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse de savoir de quoi vous avez parlé ce matin avec les amis du Ma. Ah, merci beaucoup, Marine. C'était l'U-Match. J'ai le jeu de mots. Débat entre un général des armées qui a travaillé pour l'OTAN et M. Badi autour de comment faire pour maintenir la paix. Excellent. Comment finir avec la guerre, Bertrand Badi et le général Dutartre. Ah oui, général Dutartre, très bien. Ok. Merci, vous êtes super. Donc, on était en train de se pencher, alors, ici dans le Figaro, sur. Mais pourquoi l'obsession trumpienne pour le Groenland? Alors, on parlait d'abord de sa passion pour le mètre carré. Regardez la taille de ça. Il parlait de la carte du Groenland. Ça devrait être. Aux États-Unis, dit-il à propos du Groenland à deux journalistes, Peter Baker et Susan Glasser, dans leur ouvrage The Divider. Aux confins de l'Arctique, la plus grande île du monde qui ne soit pas un continent a une taille comparable à la République démocratique du Congo. On parle de mètres carrés là. Hein. De la part d'un ancien promoteur immobilier, le mètre carré c'est toujours important. Ou pour prendre une comparaison parlant davantage au président américain, l'équivalent du Texas et d'Alaska réunis. C'est également le territoire le moins densément peuplé au monde. Avec une population de 57 000 habitants, principalement des Inuits, pour 2,2 millions de kilomètres carrés. Alors, mètre carré, loi Carrez ou pas, ça je sais pas. Merci Jean Valdut. L'île est géographiquement plus nord-américaine qu'européenne, mais les siècles en ont décidé autrement, et l'histoire, vous le savez. Trump avait déjà évoqué le sujet en 2019, voudrait rétablir le primat de la géographie sur l'histoire. De ce point de vue, il ne fait que s'inscrire dans le sillage de précédentes tentatives d'achat du Groenland par les États-Unis. On en a parlé tout à l'heure. Le chèque a été proposé en 1967, en 1867. Le chèque a été proposé en 1910. Le chèque a été proposé en 1946. Le chèque a été proposé lors du premier mandat de Trump également. Voilà. Alaska, Louisiane, territoire du Mexique, les États-Unis ont une longue tradition d'acquisition de terres. Donc là, l'article rappelle comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a obtenu l'autorisation de créer des bases au Groenland, hein, pour lutter contre l'Allemagne nazie. Voilà. Et en 1951, un accord de défense signé avec le Danemark confère aux États-Unis le droit de se servir de base militaire au Groenland. L'implantation d'envergure débute avec la construction dans le nord-ouest de la base de Thule. Bon, il y a toute l'histoire des bases là. Voilà. Cette base a été renommée Pitufik. Elle est toujours en activité. C'est la dernière qui est toujours en activité. Alors, pourquoi cette obsession, à part les mètres carrés, de Trump pour le Groenland? Quels sont les impératifs de sécurité nationale mis en avant par Trump pour mettre la main sur le Groenland? La base spatiale de Pitufik joue toujours un rôle important pour le système d'alerte avancée américain face aux menaces balistiques et la surveillance spatiale. Si la Russie envoyait des missiles vers les États-Unis, la voie la plus courte pour les armes nucléaires passerait par le pôle Nord et par le Groenland. C'est pourquoi cette base de Pitufik est d'une importance capitale. Mais le chercheur qui explique cela, Mark Jacobsen, pointe que les États-Unis peuvent d'ores et déjà monter en puissance militairement s'ils le souhaitent, conformément à l'accord de 1951. Donc le Danemark est ouvert à un échange sur le fait que les États-Unis développent sa base ou ses bases au Groenland. Pas besoin d'envahir le Groenland. Donc ça, c'est pour l'argument sécuritaire. Trump assure par ailleurs que le Groenland, vous avez sûrement entendu cet argument, est couvert de navires russes et chinois de partout. Voilà. C'est une citation, hein, bien sûr. La Russie n'a jamais été active au Groenland. Aucun navire chinois ne se trouve au large de ses côtes. En exagérant cette menace chinoise, en ridiculisant les efforts militaires danois au Groenland, Trump cherche à légitimer le contrôle américain sur cette région, explique le chercheur Mark Jacobsen. Voilà, c'est un petit. Ouais, c'est ça. Trump nous a fait un petit peu. Non, ils sont partout.
ils sont partout, les navires russes, les Chinois, voilà, c'est un petit peu ça, tout à fait. En revanche, Pékin a manifesté de l'intérêt pour des projets miniers ou aéroportuaires. Par ailleurs, il y a la fonte de la banquise, qui ouvre le jeu des routes maritimes. Les passages du nord-ouest et du nord-est devenant de plus en plus praticables, vous savez, pour ce qui permettrait d'éviter pour les navires Gibraltar. Le premier traverse l'Arctique canadien, passe par le détroit de Davis, longe la côte occidentale du Groenland, jusqu'ici seulement accessible durant le court été arctique. Il n'a jamais encore été réellement exploité. Le second, appelé route sibérienne, longe les côtes de la Russie et est déjà un petit peu plus utilisé. Tous deux permettent de passer du Pacifique à l'Atlantique en réduisant les temps de transit entre l'Asie et l'Europe. Mais cette navigation polaire reste compliquée pour une exploitation commerciale et je ne vois pas ces voies maritimes remplacer à court terme le Panama. Voilà, Pandarou me parle de 15 jours économisés. Même si Trump s'en défend, on le soupçonne de renier aussi le potentiel minier du Groenland, ce qui serait très étonnant de la part de Trump. Je vois vraiment pas, je vois vraiment pas à quel moment Trump pourrait s'intéresser au sous-sol d'un pays, c'est pas son genre, hein. Venezuela. Même si Trump s'en défend, on soupçonne de lorgner aussi le potentiel minier du Groenland, notamment les terres rares présentes dans le sud. Je pense que les enjeux sont multiples. Intérêts militaires, accès aux ressources naturelles, peut-être une volonté d'expansion, déclare la ministre danoise du Commerce et des Mines. Selon une liste établie par les États-Unis, l'île possède 39 des 50 minéraux critiques indispensables à tant d'industries de pointe. Tiens donc. Elle pourrait détenir entre 10 et 20% des réserves mondiales. Quand même! Mais alors que la calotte glaciaire couvre 80% de la masse continentale, leur exploitation pose des défis immenses. Comme le pétrole vénézuélien d'ailleurs, qui est d'une extraction et d'un raffinage très compliqué. Dans un pays sans doute et sans route et aux eaux gelées de décembre à mai, la logistique est un coûteux casse-tête. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Vous savez que le président Trump n'a pas caché que son intervention au Venezuela visait à ouvrir pour les entreprises pétrolières américaines l'accès au pétrole vénézuélien. Il a fait une grande réunion, Trump. Dont je fais les articles ce matin, mais je ne peux pas tout vous mettre. Il a fait une grande réunion où il a invité tous les pétroliers américains autour d'une table en disant « Bon les gars, j'ai fait le boulot, maintenant il va falloir investir des milliards de dollars pour aller exploiter le pétrole vénézuélien. Voilà. » vous avez intérêt à y aller. Et le problème, c'est que les gars autour de la table, sauf un, la compagnie qui est déjà super présente là-bas, j'ai oublié son nom, autour de la table, ils ont dit c'est quand même beaucoup d'argent. Puis aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin de ce pétrole parce que le cours du pétrole est en dessous du prix auquel sortirait le pétrole du Venezuela qui est dur à extraire et à raffiner. Chevron, exactement. C'est ça. Donc on n'est pas tellement intéressé. Et puis merci, on investit. Puis après, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce pays dans les prochaines années. On va se refaire nationaliser, comme ça a déjà été le cas dans le passé. On va perdre tous nos investissements. Donc il y a notamment un gars qui a porté ses couilles à un patron américain et qui a dit clairement à l'issue de la réunion, mais jamais quoi, jamais on ira quoi. Et Trump a même dit, plus intérêt à y aller parce que j'ai pas invité tout le monde autour de la table et il y en a 50 autres qui attendent derrière. C'est très très drôle. Donc tout ça pour dire que Trump motive son intervention au Venezuela clairement pour des raisons autour du pétrole et que les entreprises américaines potentiellement intéressées disent non, pas trop nous. Hein. Voilà. Donc ça renvoie un petit peu à ce qu'on dit sur le Groenland avec un sous-sol très riche. Mais le Figaro est en train de nous expliquer que l'exploitation minière de ces richesses est peut-être compliquée. Donc cet Eldorado minier, pour le dire encore plus simplement, est encore dans les limbes. Et aujourd'hui, l'économie groenlandaise repose essentiellement sur la pêche, le tourisme et beaucoup les subventions danoises. Pour attirer à l'Amérique les Groenlandais, Washington tente d'exploiter le sentiment anticolonial développé envers Copenhague. Parce qu'il y a une vraie aspiration des Groenlandais à l'indépendance, par ailleurs. Après, est-ce qu'il faut que ça passe par les États-Unis ? Je pose la question, j'ouvre le débat. Celui-ci peut se nourrir de lourdes histoires, comme un programme de contraception affectant des Groenlandaises ou des tests psychologiques obligatoires ayant conduit de nombreux parents à perdre la garde de leurs enfants,
Hein. Les Groenlandais dénoncent une incompréhension culturelle, estiment avoir été traités comme des citoyens de seconde zone. Notre message au Danemark est très simple, vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple groenlandais. A déclaré J.D. Vance lors de sa visite au Groenland au printemps dernier. Voilà. Trump assure que l'ombrelle américaine assurera la prospérité et la sécurité des Groenlandais. Make Greenland, c'est Groenland, great again. Pardon. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me disait, ouais, mais en fait, les Groenlandais, ils veulent pas de la tutelle américaine non plus. Vous n'avez pas tort, c'est ce que disent les sondages. Si près de 80% des Groenlandais sont favorables à l'indépendance vis-à-vis du Danemark, les sondages montrent que 85% d'entre eux rejettent l'idée d'une intégration aux États-Unis. Contre seulement 6%, ils seraient favorables. Bah alors ? Nous n'accepterons aucune violation de notre droit fondamental à l'autodétermination. L'avenir du Groenland appartient au peuple groenlandais, dit Aja Chemnitz, qui est une députée groenlandaise du Parlement danois. Mais si la quasi-totalité des partis groenlandais sont à faveur de l'indépendance, le rythme et la nature de l'émancipation varient. Par exemple, vous avez un parti qui s'appelle Nalerak, qui veut l'indépendance tout de suite, sans ménager Copenhague. Eux, ils sont prêts à se rapprocher des États-Unis pour l'obtenir. D'autres font le raisonnement inverse et voient dans le giron danois la meilleure façon de protéger désormais l'identité inuite. Parce que les autorités danoises, aujourd'hui, elles semblent plutôt ouvertes à cet échange, à ce processus de discussion sur l'autonomie, l'indépendance, parce que l'autonomie est déjà partiellement mise en place, du Groenland. Alors, pourquoi Trump veut à ce point le Groenland ? Bon, on a parlé de la taille déjà de la région, ça fait, ouais. On a parlé des richesses en sous-sol, même si ce sont difficilement exploitables. La fin de l'article dit « Beaucoup estiment que les raisons stratégiques et économiques qu'on vient d'évoquer, ne sont que secondaires. » Bah oui, Marine, bien sûr. Je pense que c'est l'ego démesuré de Trump qui est le principal moteur dans cette affaire, estime Mark Jacobsen. Il veut être le président qui aura rendu sa grandeur à l'Amérique en agrandissant le territoire. Le président américain a lui-même un jour confié son souhait de porter le drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Voilà. Donc, comme pour le Venezuela, finalement, on se rend compte que les entreprises pétrolières américaines ne sont pas plus intéressées que ça aujourd'hui par le pétrole vénézuélien, ben ce serait plus une histoire de « les gars, c'est moi qui ai agrandi ou la zone d'influence, ou même le territoire américain, MMG dit le terme grandeur, mais dans le sens littéral, dans le sens premier du terme. Ouais, la grandeur, la taille, quoi, les mètres carrés. Voilà. C'est celui qui a la plus grosse, quoi. Carte, bien sûr. Voilà. C'est intéressant, hein ? Et puis, on va aller un petit peu plus loin avec Lacroix maintenant, qui est plutôt axé sur la réponse, plutôt la non-réponse des Européens. Pourquoi l'Europe est à ce point tétanisée dans ses ambitions américaines trumpiennes vis-à-vis du Groenland ? Pourquoi l'Europe est à ce point hésitante et timide ? Il y a tout un dossier dans Lacroix là-dessus. Puis après, ça nous permettra de passer à Marine Le Pen. Let's go. L'Europe tétanisée. Prise au dépourvu, donc ça c'est la une de la croix, l'Europe cherche les moyens de contrer les menaces sur le Groenland de Donald Trump qui fait le plus grand cas des alliances historiques. On a un petit éditorial, je vous rappelle, c'est un journaliste qui donne son avis dans la croix qui est assez intéressant, qui s'appelle Front Intérieur, qui est écrit, signé par Fabienne Lemayeux dans la croix qui est ici. Qui parle de Trump, mais Trump s'habille son œuvre, quoi, au général aujourd'hui, quoi. Près d'un an après son investiture à la tête des États-Unis pour son deuxième mandat présidentiel, Trump apparaît plus jamais comme le président de la discorde. À rebours de son aspiration à recevoir le prix Nobel de la paix, bon, ça finalement, j'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire, hein, l'administration américaine multiplie les opérations militaires hors de ses frontières et se retire d'institutions et de traités onusiens garantissant le droit international tel qu'il a été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Omniprésent et puissant à l'extérieur, c'est dans son pays que le président américain trouve aujourd'hui ses limites. Ses promesses d'America First, où le protectionnisme servirait la cause du peuple, se diluent dans l'obsession d'une croisade contre l'ennemi chinois dont il assume l'hubris. Pour l'heure, il doit faire face à la colère d'une partie de son pays, après la mort de René Nicole Good,
hein, dont on a beaucoup parlé, nous, en fin de semaine dernière, bien sûr, hein, ce meurtre monstrueux, tué à Minneapolis, Minnesota, par l'ICEO, la police fédérale de l'immigration américaine. Les images de la scène laissent peu de doutes, rappelle Lacroix, sur la disproportion entre la réplique policière et la menace que constituait la jeune femme engagée dans la lutte contre les dérives d'une politique migratoire ouvertement raciste. Légitime défense, dit pourtant la Maison-Blanche. Je rappelle que l'administration américaine a qualifié cette victime de l'ICE de terroriste, hein, en affirmant que le policier avait agi comme il aurait dû agir. Hein. Ce n'est pas un syndicat policier qui a fait cette déclaration, mais c'est bien l'administration américaine elle-même. Légitime défense, dit pourtant la Maison-Blanche, avant même la conduite d'une enquête. Le président américain, artisan de la post-vérité qui consiste à ériger les opinions en vérité alternative, pourrait être pris au piège de ses propres méthodes et voit son travail de sape du socle référentiel commun se retourner contre lui. Revenu pour beaucoup de l'espoir d'une vie meilleure, les Américains semblent encore compter sur leurs institutions démocratiques, mais jusqu'à quel point sont-elles respectées par l'administration Trump ? La décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité des droits de douane, décidée au printemps attendu mercredi, sera en cela un test. Oui, parce qu'effectivement, il y a un truc dont on ne se rend pas compte, mais il y a une partie des décisions de Trump régulièrement qui sont battues en brèche ou par le Congrès ou par la justice américaine. Hein. Par exemple, dans la réduction de la taille de l'administration, Trump a connu des échecs puisque la justice lui a dit parfois « mais c'est totalement illégal ce que vous faites là ». Et là, la Cour suprême doit se prononcer mercredi sur la constitutionnalité des droits de douane. Et la Croix ce matin nous dit que ce sera un test pour voir s'il reste encore des contre-pouvoirs aux États-Unis, quoi. Alors maintenant, intéressons-nous à cette question sur mais pourquoi l'Europe est aussi semble aussi faible face aux États-Unis dans cette question du Groenland. L'insistance de Trump sur le Groenland révèle la fragilité de l'alliance transatlantique, l'Europe. Les pays européens qui avaient tout misé sur les États-Unis pour leur sécurité, ah, c'est vrai. Comme le Danemark se trouve aujourd'hui pris au dépourvu, comment défendre ses valeurs sans froisser l'allié américain ? Autrement, si je peux me permettre, autrement poser la question, comment défendre une partie du territoire américain contre celui, les États-Unis, qui justement est censé, à la base, via l'OTAN, aider à défendre le territoire américain ? À Copenhague, l'insistance de Trump à mettre la main sur le Groenland crée un profond malaise, écrit Lacroix. Il y a un journaliste spécialiste du Groenland dans un quotidien danois qui décrit même un sentiment de panique qui se serait emparé des élites politiques du pays en même temps qu'une détermination à résister. Cette panique, j'ai l'impression qu'elle gagne en fait toute l'Europe. La Croix résume la difficulté des pays européens aujourd'hui, comment rester fidèle à ses valeurs sans se fâcher avec l'allié américain. La Suède a exprimé son soutien au Danemark tout en restant mesurée dans sa critique de Washington. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sur la première déclaration de Macron, vous savez, après le Venezuela. Il y en a une deuxième qui est passée un peu inaperçue, mais la première était quand même oubliée de dire, donc, parce qu'il se félicitait de la capture et de la fin du pouvoir de Maduro, mais oublié quand même de dire dans quelles conditions s'était déroulée cette capture. Après, il y a eu une deuxième déclaration de Macron, mais celle-ci est passée un peu inaperçue. La Suède a donc exprimé son soutien à Danemark tout en restant mesurée dans sa critique de Washington. Même chose dans l'Allemagne, le chancelier Friedrich Merz a fait preuve de retenue après l'enlèvement de Maduro. Merci Pauline. Merci beaucoup. Merci Martine Laine. Merci Jean Valdu. Merci Greg Istou. Évoquant une situation complexe. Voilà. De la même manière que le président Macron a été critiqué en France pour cette déclaration sur Maduro, Friedrich Merz a aussi été critiqué en Allemagne. Mais qu'aurait-il dû faire, demande le Süddeutsche Zeitung, le quotidien allemand. Les Européens sont victimes de leur propre chimère en matière de politique de sécurité, observe le journal dans un édito. Une critique sévère de la politique de la canonnière au Venezuela compromettrait le soutien indispensable des États-Unis à une solution de paix en Ukraine.
Vous savez que les Européens ont besoin des États-Unis pour que l'Ukraine ne soit pas envahie par la Russie. Et ce qui s'est dit ces derniers jours, c'est que dans les réactions très tièdes de l'Europe vis-à-vis du Venezuela et du Groenland, c'est que les Européens ont très peur de fâcher les États-Unis et que ces derniers lâchent l'Ukraine. Au-delà des menaces sur le Groenland, le gouvernement allemand craint particulièrement les ingérences des États-Unis et un soutien appuyé à l'extrême droite. Vous savez que le président Trump s'est distingué ces dernières années par des déclarations de soutien à différents mouvements d'extrême droite en Europe. Et un soutien appuyé à l'extrême droite en cette année 2026, marqué par d'importantes élections régionales en Allemagne. Le chancelier Merz a entrepris de renforcer le budget de la défense, de diversifier les commandes militaires. Hop, j'avance dans l'article. Qui dit ça? C'est intéressant. C'est une déclaration, mais je n'ai pas la source. Christoph Eugsen, ancien président de la conférence sur la sécurité de Munich, donc c'est un Allemand, déclare « Le premier mandat de Trump avait remis en cause la base transatlantique de la politique allemande. Trump 2, deuxième mandat, l'a détruite. Merci Daria pour ton soutien. » Selon un récent sondage, jamais le soutien aux États-Unis n'a été aussi faible en Allemagne. Seuls 15% des Allemands considèrent désormais ce pays comme un partenaire de confiance. Le chiffre est fou. D'autant que on parle des Allemands là. Hein. Pour la plupart des Allemands, ce revirement est historique car l'Allemagne de l'Ouest s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale grâce au soutien américain. Hein. Au point que le journaliste Holger Stark parle d'une Allemagne quasiment sous protectorat des États-Unis qui a gagné une indépendance partielle après la réunification sans s'être jamais vraiment émancipée depuis. Alors, l'article parle de la Pologne aussi, hein, qui a également sorti du communisme, beaucoup misé, compté sur les États-Unis. Et malgré cette relation, le chef du gouvernement polonais, Donald Tusk, qui est plutôt d'ailleurs, qui s'entend plutôt bien avec Trump d'habitude, donc Tusk a déclaré le 5 janvier « Aucun membre de l'OTAN ne devrait en menacer un autre. » Et là, vous avez un deuxième article dans La Croix qui dit « Alors, réaction plutôt tiède et mesurée des responsables européens face à Trump actuellement. Voilà. Et pourtant, l'Europe a des outils, des moyens, des armes, hein, des leviers qu'elle pourrait saisir, mais qu'elle ne saisit pas. Les 27 étudient différents moyens de contrer les États-Unis sur la question du Groenland, mais doivent encore trouver la volonté politique de le faire. Paderius, merci à toi. Alors, quels sont ces outils? Je vais vous les donner rapidement. Comment dissuader Washington de s'emparer de l'île? Il faudrait faire monter le coût politique d'une annexion en envoyant rapidement des troupes de plusieurs pays européens. Peu importe. Excusez-moi, je suis sur la politique internationale. Donc il faudrait faire monter le coût politique d'une annexion en envoyant rapidement des troupes de plusieurs pays européens. L'éventualité de friction entre alliés aura un effet dissuasif, suggère un chercheur qui s'appelle Yves Bertrand ici. Voilà. Il estime aussi que les États européens pourraient cesser d'acheter des bons du trésor américain, voilà, pour moins financer la dette américaine, ou que la Commission pourrait appliquer des règles sur le numérique avec plus de vigueur aujourd'hui. Dans le journal Le Monde, il y a un groupe d'universitaires qui fait une autre proposition, interdire l'entrée sur le territoire européen, ce serait symbolique, mais je pense que ça pourrait déplaire à Trump, de l'envoyé spécial de Trump pour le Groenland et gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Donc l'Union européenne dispose de nombreux moyens pour agir, mais a-t-elle la volonté de les utiliser? Pour l'instant, la réponse est non. Les Européens ont trop peur, notamment, de relancer la guerre commerciale avec les États-Unis et de perdre leur soutien militaire. Pour nombre de pays européens,
c'est même l'impensable aujourd'hui. Hein. S'élever contre les États-Unis est tout simplement impensable. Difficile d'admettre pour ces Européens que le lien transatlantique cultivé depuis 80 ans vaut moins pour la nouvelle administration américaine que cette grande île gelée aux portes de l'Arctique. À voir,
à suivre.
Bien malin pourrait nous dire ici ce qui va se passer dans les prochains jours au Groenland. Si vous l'avez, ça m'intéresse. Je vous lis et on enchaîne.
On va voir Marine Le Pen.
Alors, je lis un petit peu le chat. Non, n'enchaîne pas Marine Le Pen. On enchaîne avec Marine Le Pen. Mais les oiseaux, enfin, après vous voyez. Que les Européens se concertent avec les Groenlandais serait aussi une bonne idée avec le Parlement groenlandais. Ouais, d'ailleurs, c'est pas faux. La France et ses territoires ultramarins doivent-elles s'inquiéter? Salut Dagiro. Je prépare ma raclette à neige en écoutant le stream. Alors raclette à neige, sur le coup j'étais sur un plat, une raclette mais avec de la neige. Et en fait non, c'est pas ça, c'est pas du fromage, c'est... Non, c'est, Gary, est-ce que tu prépares une raclette à la neige? Donc t'es à la montagne, tu prépares une raclette. Ou est-ce que tu mets une raclette à neige, c'est pour enlever la neige, mais est-ce que ça se prépare ça? Excusez-moi, je m'interroge. Je ne comprends pas que l'Europe puisse être aussi molle, fasse quelque chose comme ça me rend fou, me dit Gilles Fize. C'est pour enlever la neige. Excusez-moi, je trouve le chat. Voilà, puis là, on va se pencher sur le procès en appel qui commence demain de Marine Le Pen, qui devrait durer un mois à peu près. Trump nous a déjà prouvé qu'il se fiche de ce qui peut être dit, rappelle Royce Le Barge, s'il veut le Groenland, il l'aura. Alors moi je voudrais qu'on pose les questions importantes sur cette chaîne. Et effectivement, il y a Cyril qui demande c'est quoi la différence entre une raclette à neige et une raclette à givre? Et c'est une. Et je le dis premier degré, la réponse m'intéresse. Il y en a qui ont la belle vie, hein. Moulbit dans le chat. Modérateur, je remplace mes sessions running par des sessions de ski le midi d'ailleurs en ce moment, quel bonheur. Alors, on a la réponse dans le chat. Deux portes bis, la raclette à givre, c'est du caoutchouc. La raclette à givre, ça a des dents. Donc tu viens de comparer la raclette à givre à la raclette à givre. Je pense que tu voulais nous dire que l'une des deux avait des dents. Voilà. Non mais par contre, il y a des spécialistes. Ce qui est bien sur Twitch, c'est qu'il y a des spécialistes de tout. Amquel, merci. Ayant habité assez longtemps à Moscou, voici la réponse. Voilà. Et on reparle de la Russie en plus. Raclette à neige, raclette rigide, surtout pour neige fraîche ou poudreuse, raclette à gel, raclette avec lame souple en caoutchouc plus efficace sur neige fondue, eau ou verglas léger. Voilà.
Oh, Justine vient de louper son permis. Justine, on t'envoie plein de force, désolé.
Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, ce sera pour la prochaine fois, hein. Un coup de stress, non? Excusez-moi, certains, les habitués sont ont peut-être deviné, mais je lisais le chat et en même temps je lisais un historique. De 54 messages, à l'issue duquel j'ai décidé de ne rien faire. J'ai loupé une priorité à droite. Ah, dit Justine, ah, c'est le stress, ça. Bon, allez, amis, je vous emmène. Rencontrer Marine Le Pen, hein. Voilà, quelle chance ce matin. Voilà, c'est cadeau. La matinée est tienne avec le procès en appel de celle qui n'est pas la présidente du parti, mais qui est souvent présentée malgré tout comme la chef du RN officieuse depuis qu'elle a quitté ses responsabilités de numéro un du parti, mais toujours la présidente du groupe parlementaire, du groupe des députés RN à l'Assemblée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Pourra-t-elle briguer l'Élysée, puisque voilà, le procès en appel qui va durer un mois dans l'affaire des assistants parlementaires européens, voilà, ben, l'issue de ce procès va déterminer le fait de savoir si c'est Marine Le Pen qui va représenter le RN à la présidentielle 2027 ou Jordan Bardella qui est devenu le nouveau président du RN. Le procès en appel de Marine Le Pen, chef de file du RN. Voilà, chef de file du RN. Voilà. Jugé aux côtés de 10 autres prévenus qui ont contesté leur condamnation en première instance, s'ouvre ce mardi, c'est demain, avec un enjeu, sa participation à la présidentielle de 2027. Timothée Boutry, article dans Le Parisien, mais on lira aussi un deuxième dans Libération sur le même sujet. Les acteurs sont globalement les mêmes. Voilà. Mais le décor va changer. Fini le tribunal judiciaire de Paris, place au palais de justice de l'île de la Cité, et sa première chambre civile qui a vu comparaître déjà pêle-mêle le maréchal Pétain. Oh, les coquins parisiens. Dominique de Villepin, relaxé dans l'affaire Clearstream, ou encore Édouard Balladur, relaxé par la CJR, la Cour de justice de la République, dans l'affaire Karachi. C'est au cœur de la capitale que Marine Le Pen joue à compter de ce mardi son avenir politique dans le procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Parce que l'affaire date du FN. Voilà. Alors après, si j'en crois les soutiens du RN qui viennent souvent me parler ici ou sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'amour et de tendresse, dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de procès. Parce que tout le monde sait que le FN et le RN, ça n'a rien à voir. Hein. C'est absolument pas les mêmes dirigeants. C'est absolument pas les mêmes idées. Et plein d'autres choses encore. Hein. Donc, vraie question. C'est au cœur de la capitale donc, que Marine Le Pen joue à côté de mardi son avenir politique dans le procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Voilà. Sachant que je trouve que cet article du Parisien est vachement bien parce qu'il rappelle vraiment ce qu'il y a au fond de l'affaire. Voilà. En première instance, la chef de file du désormais Rassemblement national a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 100 000 euros d'amende, pourquoi? Pour détournement de fonds publics. Il y a Dim Nadoui qui dit pourtant majoritaire en France. Le RN? Il serait au pouvoir alors. Détournement de fonds publics. Le tribunal a assorti la sanction d'une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, c'est-à-dire application immédiate, en raison du trouble irréparable à l'ordre public démocratique qu'engendrerait le fait qu'elle soit candidate, voire élue, par exemple, et notamment à la présidentielle. C'est ce qu'avait dit la justice en première instance. Au-delà du poids symbolique d'une nouvelle condamnation pour une atteinte à la probité, si elle a été condamnée une deuxième fois en appel,
C'est bien la question de la possibilité de Marine Le Pen de concourir à la magistrature suprême en 2027 qui demeure l'enjeu principal de ce procès. Le calendrier a été avancé justement pour percuter le moins possible le processus électoral. Le calendrier a été avancé pour que si jamais la justice décide qu'elle n'a pas à être condamnée, elle n'a pas à être inéligible, elle puisse se présenter. Depuis le déclenchement de l'affaire après... Alors, moi, ce que j'aime bien dans cet article, c'est que vraiment, si vous ne savez pas ce qui est reproché au RN, au FN, dans cette affaire des assistants parlementaires européens, ben vous allez tout comprendre parce que le Parisien est assez carré là-dessus. Depuis le déclenchement de l'affaire, après un signalement du Parlement européen en 2015, c'est le Parlement européen qui signale cette histoire en 2015, les élus frontistes et leurs collaborateurs n'ont jamais réussi à convaincre la justice. Les soupçons initiaux d'un détournement de la manne européenne, des fonds européens, au profit du parti, ont été confortés par l'instruction et consacrés par les juges de première instance. Des 25 prévenus jugés à l'automne 2024, un seul a été relaxé, un comptable, 1 sur 25. En revanche, ils ne sont que 11 à avoir fait appel. Hein, les autres ont accepté leur condamnation. Voilà. Les anciens assistants parlementaires ont pour la plupart accepté leur condamnation pour recel de détournement de fonds publics. Ce second round offre néanmoins un casting de choix, puisqu'il y a Marine Le Pen qui fait appel, qui dit qu'elle est innocente. Hein. Outre Marine Le Pen, on retrouvera sur le banc des prévenus l'ancien vice-président du FN, Bruno Gollnisch, le maire de Perpignan, Louis Alliot, ou l'ex-assistant devenu député de Lyon, Julien Odoul. Et donc le RN poursuivi également en tant que personne morale, tous nient les faits. Au cœur des soupçons, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le fond de l'histoire, la voici. Au cœur des soupçons, il y a l'utilisation présentée comme dévoyée des fonds publics européens. Concrètement, le Parlement européen rémunère les collaborateurs de chaque élu. Okay ? Si l'embauche de militants d'un parti n'est évidemment pas interdite, les assistants ne doivent exercer une activité qu'en lien direct avec le mandat de leurs députés, puisque ce sont des fonds européens pour le bon fonctionnement du Parlement européen et permettre le travail dans de bonnes conditions du député. Quoi. Okay. Alors, j'ai vu Picanier se prendre un Théo, donc un petit ban pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, un petit Théo, un petit ban provisoire, il va pouvoir revenir par la modération par mes amis Modo. Je voudrais quand même vous partager l'historique de monsieur Picanier. Petit plaisir du matin, 11h28, un petit plaisir du lundi. Premier message sur cette chaîne, le 12 janvier 2026. Ah, tout ça, c'est aujourd'hui ? Ok. Bon, c'est d'aujourd'hui. Il faudrait regarder ce que Macron fait aussi. Je pense qu'il va prendre perpétuité quand il ne sera plus président. Bon, on passe sur les parties passées. On sait que c'est... Moi, je ne juge pas les parties passées. C'est devenu compliqué. Le deuxième, c'est donc... Pétain était un communiste. Ça serait bien... Ça quoi ? Ça serait bien de te renseigner. Voilà. Voilà. Je ne vois pas en quoi le RN est raciste. Cite-moi un exemple. Voilà. Et nous avions le dernier qui a énervé la modération, qui est un tachat de gauchiste, ici je vois. Or, tachat de gauchiste, ça par contre, c'est un peu insultant. Non. Je ne vois vraiment pas ce que ça vient de faire ici, tachat de gauchiste. Mais peut-être as-tu voulu écrire chat de gauchiste. Voilà. Bon. Je trouve que la sanction temporaire est une bonne sanction. Non, pas définitive. Parce que Toria dit petit ban d'EF, non. Parce qu'il est bon de rire. Et que dans cette période d'actualité extrêmement anxiogène, de mauvaises nouvelles, de crise internationale, voilà, eh bien je trouve qu'il est bon, de temps en temps, hein, de rire ensemble. Voilà, de sourire même, voilà. Et je pense que ce contributeur à nos débats, je pense qu'il faut le garder, voilà. Parce que ça détend. Donc voilà,
On va te retrouver dans quelques minutes et avec grand plaisir. Donc je reviens à mon affaire de procès. Au cœur des soupçons, il y a donc l'utilisation présentée comme dévoyée des fonds publics européens. Concrètement, le Parlement européen rémunère les collaborateurs de chaque élu. Si l'embauche de militants n'est pas interdite, les assistants ne doivent exercer une activité qui est uniquement en lien direct avec le mandat. C'est normal, sinon c'est du détournement de fonds, quoi. Or, à l'issue des investigations, de l'enquête, les juges d'instruction ont considéré que le parti, qui était en proie à des difficultés financières à l'époque, après c'est allé mieux parce qu'après ils ont commencé à avoir des meilleurs résultats aux élections, et ça leur a permis d'avoir des fonds publics de soutien, quoi. Notamment au niveau français. Le parti, à l'époque, en proie à des difficultés financières, avait mis en place, donc, c'est ce qui est reproché par la justice, à partir de 2004, un système de fraude destiné à rémunérer des personnes travaillant en réalité pour le mouvement, pour le parti, voilà, et pas pour le député européen, comme le garde du corps et le majordome de Jean-Marie Le Pen, l'assistante personnelle de Marine Le Pen, voilà. Aucun soupçon d'enrichissement personnel n'a été mis au jour. Les enquêteurs ont notamment mis la main sur un courrier, parce que pour condamner, il faut des preuves, adressé le 16 juin 2014 à Marine Le Pen par Valéran de Saint-Just, qui était trésorier du FN à l'époque, sur les difficultés de trésorerie du parti. Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen. Ça, c'est ballot, ça, par contre. Et si nous obtenons des reversements supplémentaires, écrit-il dans cette lettre, adressée à Marine Le Pen. Sauf qu'en fait, ça, c'est interdit par la loi, ça. Ce qu'il décrit là, le trésorier. Ce même mois de juin 2014, Marine Le Pen avait organisé une réunion avec l'ensemble des députés européens de son parti, au cours de laquelle, selon plusieurs participants, elle aurait distillé de nouvelles consignes. Chaque député était libre d'embaucher un assistant de son choix, mais devait reverser le reste de l'enveloppe allouée par le Parlement au parti, chargé de gérer les embauches complémentaires. Mécontent, un député FN à l'époque, Jean-Luc Schaffhauser, s'en était ému auprès du trésorier et avait dit « Mais ce que Marine nous demande, là, équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs. » Et c'est le député qui est responsable pénalement là-dessus. Et le trésorier lui avait répondu « Je crois que Marine sait déjà tout cela. » Lors du premier procès, Marine Le Pen, poursuivie en tant qu'autrice principale de détournement avec sa casquette d'ancienne députée européenne, mais aussi de complice par instruction en tant que chef du parti, Il passera pas votre Jean-Luc, vous pouvez toujours rêver, vous croyez que les monarques français, les monarques, vont vouloir se faire pomper leur argent par les communistes. Petit plaisir dans le chat. Donc Marine Le Pen avait plaidé que les assistants parlementaires faisaient de la politique et que son parti avait le droit de mutualiser ses forces. Le tribunal n'a pas été convaincu. Comme moi par le message dans le chat à l'instant. Il a été établi que tous ces contrats ne répondaient à aucun besoin d'assistance parlementaire du député et étaient dépourvus d'objets réels. Ces assistants n'avaient pas assisté le député dans l'exercice de son mandat de député européen et travaillaient en réalité pour le parti. Voilà, ce sont bien des contrats fictifs. Détaille le jugement en évaluant le montant. Ça a porté sur combien d'argent, ça ? Total des détournements, à peu près 3,2 millions d'euros. La gravité des faits dans leur ensemble résulte de leur nature systémique. C'était un système, c'était pas un coup par-ci, un coup par-là, c'était un truc organisé. De leur durée, ça a duré longtemps. Du montant des fonds publics, on parle au moins de 3 millions d'euros. Mais aussi de la qualité d'élus des personnes condamnées comme auteurs de ces détournements, qui devraient donc être exemplaires, ainsi que de l'atteinte portée à la confiance publique et aux règles du jeu démocratique. De la part d'un parti, le FN à l'époque, dont la rhétorique s'appuie notamment sur le « tous pourris ». Hein, tous les autres partis, tous les autres élus, hein, c'est des pourris, c'est des gars qui profitent du système. Et quand vous dites « tous pourris », comprenez, et pas nous. Et là, forcément, ça fait désordre. C'est pour ça que le jugement parle de l'atteinte portée à la confiance publique et aux règles du jeu démocratique. Au yeux du tribunal, Marine Le Pen s'est inscrite avec
autorité et détermination dans le fonctionnement instauré par son père, parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui met ça en place. Ce que le tribunal lui reproche, c'est d'avoir continué. Voilà. La gravité des faits et la qualité de la prévenue justifie pour les juges la peine complémentaire d'inéligibilité, on y est, et son exécution provisoire qui lui a automatiquement fait perdre son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Depuis qu'elle a fait appel, l'ancienne double finaliste à la présidentielle, présidente du groupe RN à l'Assemblée, est de nouveau présumée innocente. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant l'ouverture de ce second volet judiciaire qui commence demain, mardi, procès en appel, et qui doit s'achever le 12 février, donc ça va durer pile un mois, normalement. Avec une décision mise en délibéré, rendue avant l'été. Donc Marine Le Pen saura avant la présidentielle 2027 si elle peut se présenter ou pas. Voilà. Sauf démission du président Macron. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors j'ai deux papiers qui... sur le même angle. J'ai un article dans Le Parisien sur la stratégie de défense de Marine Le Pen, la nouvelle stratégie de défense, et j'ai la même chose dans Libé. Alors, stratégie de défense devenue secrète. Bon, on va essayer de lire les deux vite fait pour pas rater d'infos. J'ai le temps, quoi, 11h36, ouais, j'ai le temps un petit peu. Elle sait que c'est... Il y a Toli qui dit « Elle sait que c'est déjà mort ». Le procès n'est pas fait, hein. Moi je fais pas de pari sur l'actu, moi. Le procès n'est pas fait, hein. Le procès n'est pas passé. Hein. Nouvelle stratégie de défense. Qu'est-ce que dit le Parisien ? Ok, bon, ça rappelle ce qu'on s'est déjà dit, d'accord. Tatata, rappelle que si Marine Le Pen n'est pas éligible, ce sera donc Jordan Bardella qui ira, ça on sait, ok, très bien. Alors, voilà, on y est. Quelle stratégie de défense pour Marine Le Pen ? La parole à la défense. Merci ADN, tu es trop gentil, ADN7. Une chose est sûre, malgré un dossier judiciaire lourd et des faits qui semblent accablants, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Marine Le Pen, elle clame son innocence. Il faut l'entendre, ça aussi, hein. Je vais expliquer au juge que je suis innocente des faits qui me sont reprochés, que nous n'avons jamais monté aucun système. Je n'ai aucune raison de changer de défense, disait-elle le 18 décembre sur CNews. Ouais, mais la cassation, la MMG, les articles en parlent, mais disons que la cassation, après, sera trop tard pour la présidentielle. A priori, c'est ça. Parce qu'effectivement, MMG a raison. Après, le verdict n'est pas définitif parce que Marine Le Pen peut se défendre en cassation, voire aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais a priori, ce que semble dire la presse aussi, c'est qu'après, ce sera trop tard pour 2027, en termes de timing. Déjà, là, ils sont un petit peu pressés exprès pour qu'elle ait le jugement avant la présidentielle. Donc, elle dit « Je ne change pas de ligne de défense parce que je suis innocente. » Et un proche de Marine Le Pen dit « Changer de stratégie reviendrait à une reconnaissance de culpabilité. » Alors, bis repetita ou pas ? Hein, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, mais c'est plié, elle va être condamnée. Un procès en appel, c'est une nouvelle page. Ça fait 8 mois qu'on bosse dessus comme des dingues. Il y aura des modifications de fond et de forme, dit-on, dans l'entourage de Marine Le Pen, avocats, juristes, élus. Nombreux ont été ceux qui, ces derniers mois, ont envoyé des contributions à Marine Le Pen. Hein. Et elle dit, j'ai un seul axe de défense, c'est la vérité, je ne vais pas la modifier pour faire plaisir aux experts de plateau. Voilà, elle a deux avocats, là on est sur les détails de sa défense. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'elle va dire ? Voilà. Un élu RN dit « Il faut insister sur la non-intentionnalité de commettre l'infraction. » Donc il y a un élu qui dit « Ouais, ok, il y a infraction, on n'aurait pas dû utiliser cet argent pour le parti, mais c'est non-intentionnel, on l'a pas fait exprès, quoi. » Et les règles à l'époque n'étaient pas claires. Et elles ont évolué. Et la défense va aussi évidemment dénoncer ce qui avait été évoqué lors du premier jugement, c'est-à-dire le trouble majeur à l'ordre public démocratique. Voilà. En essayant de démontrer que les magistrats n'ont pas jugé le droit, mais sur la base d'une motivation politique. En fait, on n'apprend pas grand-chose sur la ligne de défense de Marine Le Pen ici, dans le Parisien, sinon qu'elle va rappeler qu'elle est innocente. Et pour cause, que dit Libération, que cette stratégie de défense de Marine Le Pen, eh bien, elle est tenue secrète. Rien n'a encore filtré au sein du parti sur la ligne que tiendra Le Pen au tribunal. Certains espèrent une approche moins politique en première instance, à l'issue de laquelle le RN avait surtout remis en cause l'exécution provisoire de la chaîne. De la peine, pas de la chaîne, Samuel. Alors, est-ce qu'on a des infos dans Libé ? Jusque dans les rangs du RN, rien ne filtre. Comme en première instance, l'ancienne candidate à la présidentielle se prépare seule avec ses avocats. Lors du premier procès, les prévenus s'étaient appliqués à démontrer l'illégitimité du tribunal à les juger, en estimant que ce n'était pas à la justice française de juger de cela, préférant la victimisation et la remise en question. Ligne de défense contrainte par le fond du dossier qu'on a évoqué tout à l'heure, accablant et leur incapacité à contester les faits, preuve à l'appui. Et là, on est sur un débat qui, moi, m'intéresse. C'est bon, la culpabilité du parti, d'après les éléments qu'on a à notre connaissance, semble quand même relativement évidente. Mais la question, c'est, OK, Marine Le Pen pouvait être condamnée, et le parti, et tous les gens qui ont participé à ce système, mais la question qui est portée par certains, y compris des gens qui ne sont pas au RN. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, notamment, quelqu'un parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, je crois que Jean-Luc Mélenchon... Je crois que lui, il est sur une ligne qui dit la justice ne devrait pas pouvoir rendre inéligible quelqu'un, que c'est au peuple de décider. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on trouvera cette déclaration un peu plus tard dans l'article. Et donc ce débat, il est intéressant. Et c'est ça qui était abordé ici par Libé. La peine assortie d'une exécution provisoire justifiée en conséquence par le tribunal a paradoxalement légitimé la défense politique du RN. Dès les réquisitions, les proches de Marine Le Pen ont cristallisé la tension sur ce point, hein. Rendre inéligible l'opposante numéro 1 est par définition délicat, même si ce statut ne doit pas protéger, dit par exemple le député LR, l'eurodéputé LR, François-Xavier Bellamy. À travers cette controverse juridique, le RN est parvenu à installer un débat sur les excès supposés de la moralisation de la vie publique. Hein, est-ce qu'on irait trop loin ? Venu répondre à un sentiment de défiance que le parti, alors c'est ça qui est drôle et paradoxal, a lui-même alimenté en propageant l'idée du tous pourri que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, en 2013, le FN promettait l'inéligibilité à vie. Hein, pour tout élu condamné, le FN de 2013 réclamait l'inéligibilité à vie. Bon, ça a changé, quoi. Ils sont plus d'accord. Le parti s'inscrit dans sa conception historique des élites contre le peuple, dans sa rhétorique de l'empêchement. Voilà, c'est pas au juge. Aujourd'hui, le discours, c'est, ça n'a pas toujours été celui-là, c'est pas au juge de dire si quelqu'un peut se présenter ou pas. Peu importe les contre-pouvoirs qui fondent aussi l'état de droit, hein, selon eux, la justice entraverait une souveraineté populaire qui ne s'exprime que par le suffrage. L'onction populaire primant sur les règles que les élus ont eux-mêmes votées. Alors, c'est ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que dans leur offensive contre la justice, finalement, hein, les représentants du RN sont aidés par des représentants d'autres bords politiques, alors parfois aussi touchés par les affaires. Parmi les défenseurs de Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy.
Alors,
vous savez que je ne suis pas personne à faire du mauvais esprit, mais je ne vois vraiment pas pourquoi Nicolas Sarkozy... prend position sur le fait que la justice ne devrait pas juger des personnalités pour des choses réalisées dans le cadre d'un mandat. Hein ? C'est vraiment très étonnant. Laurent Wauquiez, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Luc Mélenchon aussi. Hein ? Lui-même visé par une enquête pour les mêmes faits que Marine Le Pen. Parce que le LFI est visé Quelqu'un me rappelait dans le chat, il dit ouais, rappelons que les filles ont des casseroles aussi. Oui, alors, les filles, il y a une instruction sur une histoire aussi de Parlement européen, sauf qu'à ce jour, ils n'ont pas été condamnés. Voilà. Voilà. Et que dit Jean-Luc Mélenchon? La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est aussi la position de Mélenchon. Voilà. C'était aussi la position du... C'est aussi la position du RN aujourd'hui. Alors pas du FN d'il y a quelques années, hein, pour ceux qui suivent. Mais bon, je pense que vous suivez. Et le Parisien dit, ouais, c'est un vrai débat. Jusqu'où doit aller la liberté des électeurs? Jusqu'où doit aller la liberté des électeurs? Est-ce qu'on doit laisser des électeurs, finalement, mettre au pouvoir quelqu'un qui a été condamné, quoi? Hein, c'est ça. Doit-elle prévaloir, cette liberté des électeurs, à la justice? Est-ce que la morale anesthésie la politique ou l'inverse? Hein? Ou ça s'arrête la séparation des pouvoirs? La jurisprudence Le Pen sera analysée de près car elle dépasse son cas. À part le PS, tout le monde voit plus loin et comprend que la boîte de Pandore risque de s'ouvrir. Attendez, il y a une autre possibilité aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est que là, donc, la peine d'inéligibilité peut être infirmée, elle peut être annulée, enfin, par le procès en appel. Elle peut être confirmée, et Marine Le Pen peut être interdite de se présenter à la présidentielle, mais il y a un truc entre les deux. Salut Noctali. Marine Le Pen peut être condamnée à une peine d'inéligibilité plus courte, qui lui permettrait quand même de se présenter en 2027. Seule une peine d'éligibilité ramenée à moins de 2 ans permettrait à Le Pen de se présenter en 2027. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas le jugement du procès en appel, ou plus lourde, mais tant qu'on n'a pas le jugement du procès en appel, on ne peut pas faire des paris, quoi. Alors quel système de défense pour Marine Le Pen, on ne sait pas trop, mais il y a des hypothèses. Si Marine Le Pen n'a jamais envisagé autre chose que clamer son innocence, certains espèrent un infléchissement par rapport à sa ligne de défense du premier procès. Hein, sans aller jusqu'à admettre un système de détournement, voilà, les prévenus pourraient plaider la bonne foi en expliquant que les pratiques et les règles ont changé. Mais qui peut... Mais qu'a décidé Marine Le Pen? Qui peut l'influencer? La chef de file des députés RN qui continue de parler d'une relaxe à laquelle personne ne croit, travaille seule secrète sur ce dossier qu'elle connaît par cœur. Il faut rappeler qu'elle est avocate de formation. Alors que les cadres du RN se targuent d'avoir reçu l'aide de spécialistes du droit, certains affirment que leur travail a suscité peu d'intérêt. Elle a trop d'orgueil. Elle répète qu'elle est innocente, elle est braquée. Ses avocats n'osent rien lui dire, regrette un membre de son entourage. À suivre. Mais en tout cas, je trouve qu'entre les articles du Parisien et Libé, on a pas mal d'infos sur ça. MMG, avocate non diplômée si je ne m'abuse, est-ce que tu as la source de cette information? Puisque Marine Le Pen a exercé en tant qu'avocate. Je crois que si on cherche, on va même trouver des traces dans des documents où elle a défendu des sans-papiers. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et pour que elle puisse exercer, c'est donc qu'elle a été diplômée. MMG, tu sais que j'apprécie tes contributions, mais as-tu vérifié cette information avant de l'écrire dans le chat? Voilà, la feuille du droit des étrangers, ouais. Voilà, source Wikipédia, au Porte Bis, en 92, après avoir suivi l'école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris, elle obtient le certificat d'aptitude à profession d'avocat et devient avocate au niveau de Paris. Ouais, je pense qu'elle a exercé, ouais. Putain, j'ai pas compris la blague. Je veux la lire parce qu'elle est pas mal. C'est Tomo qui écrit. Si elle est en appel, Marine Le Pen. Si elle est en appel. On peut quand même lui laisser un message? Elle est pas mal. Désolé, je suis injoignable. Voilà, pendant un mois, je suis en appel. Elle est technique, elle est validée.
Elle est très très bonne. Elle est... On félicite. Bon, voilà. Bon, ça commence demain. On a un mois pour éventuellement en reparler. On verra bien quoi. Ne faites pas ça chez vous, dit Sicarius. Cette blague est réalisée par un professionnel. Voilà. Bon, voilà pour les premiers gros sujets de cette revue de presse. On prend le temps ce matin. On est sur Twitch. On est cool. Voilà. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast audio aussi. On est très heureux de vous avoir. Là, on a des sujets un petit peu plus un peu plus légers. Sur lesquels on va aller un petit peu plus vite, mais pour pas parler que de politique internationale et de politique dans cette intérieure dans cette revue de presse, on va parler des cours de l'or qui s'envolent, de la baisse de la consommation, de la baisse tendancielle de la consommation d'alcool. C'est plutôt une bonne nouvelle en France depuis des années, ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord. Foot, le point sur la CAN, parce que je vous ai absolument pas parlé de la Coupe d'Afrique des Nations moi ici, parce que je suis nul en foot, mais il y a un très beau papier dans l'Humanité qui nous arrête tout à l'heure. Et enfin, la nouvelle saison de sumo qui commence au Japon, puisque c'est très important, bien sûr. Hein ? Le sumo. Oui, mais c'est pour ça qu'ils en parlent. Ouais. Il y a mon mec qui dit qu'il y a un tournoi de sumo à Paris cette année à l'Accor Arena de Bercy. Oui, bah c'est pour ça que le Parisien en parle. Mais c'est en juin, je crois. Mais c'est vachement intéressant. Oui, je sais qu'on a appris le décès de Roland Courbis, ouais, tout à l'heure, alors que je parlais de l'Iran et du Groenland et de Trump. J'ai vu cette avalanche de messages, mais on aura peut-être l'occasion de l'évoquer vite fait si j'ai le temps là, en allant chercher des infos sur Internet ou demain matin, puisque ce sera dans les journaux. Voilà. Ok. Ouais, j'aurai sûrement un beau portrait demain, c'est sûr, ouais. Qui est ce monsieur, demande Peroun 5. Alors, c'est là où je suis en difficulté, moi. Entraîneur de foot ? Entraîneur de l'OM ? Je sais pas. Non, j'ai une connerie. C'est ça ? C'est ça ? Ancien joueur de foot devenu entraîneur de grands clubs français ? Ancien footballeur, entraîneur, chroniqueur pour RMC ? Ancien coach de l'OM, ok, ouf, j'ai eu peur. Est-ce que j'ai le temps de me faire un petit café ? Rapide, un petit expresso ? Vous m'autorisez, j'en ai pour 10 secondes. Je me dépêche. Quelle heure est midi ? Putain, j'ai un Teams, faut que j'accélère un petit peu parce que j'ai un Teams à 13h moi. Ok, mais ça va aller, je me dépêche. J'en ai pour 10 secondes. C'est là où on voit que je suis pas un passionné de foot quand même. Hein. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens tout à l'heure pour me parler de Roland Courbis, alors qu'on parlait de la répression du régime iranien contre les manifestations, des ambitions de Trump sur le Groenland. Et vous avez vu que, malgré le fait que j'ai lu tous ces messages sur Courbis, je n'ai jamais interrompu mon propos. Alors, je ne veux pas insulter la mémoire de Monsieur Courbis, mais pour le coup... C'est moins ma tasse de thé, quoi. Mais s'il faut lui rendre hommage, je lui rendrai hommage. Mais peut-être qu'on peut attendre demain pour un joli papier, quoi. Parlons de l'or. Ah, je sais que j'ai un chat Riche. Je sais qu'ici, on a qui en ont. Ah. Ok. Ça va vous parler, sa bande de richoux. Un chat investisseur, exactement. Voilà. La hausse continue, un peu cinglée, du cours de l'or depuis des années déjà. C'est un article dans le Figaro, confronté à la bordélisation du monde. J'adore ce titre. Les États, les épargnants se ruent sur l'or. Ça n'arrête pas. Alors les blagues sur « il est l'or, monseigneur, l'or, mais quel l'or, l'or, Manodou ?» C'est bon, on vous connaît, on vous voit. Voilà. Plus 70% sur un an, et l'argent, plus 68%. Ouais, l'argent aussi. On voit qu'on est sur un chat d'investisseurs. Hein, parce que quand tu dis « ouais, l'or augmente, t'as l'or pendant le sommaire, t'avais la moitié d'intervention, c'était « ouais, et l'argent ?» Non, c'est l'argent qui monte très fort. On vous voit les richoux, hein. On vous voit. Lisons, pourquoi l'or continue de monter comme ça ? Trump est fasciné par le métal jaune. Bon, bah ça, tu m'étonnes. Vous savez que tout son bureau, maintenant, de la Maison Blanche, c'est plaqué or de partout. Hein. Il a redécoré le bureau ovale avec d'innombrables bibelots dorés et remplace notamment le fameux lierre qui courait sur la cheminée. Voilà. Quand tu rentres dans le bureau ovale, maintenant, il faut mettre des lunettes de soleil parce que c'est hyper goldy, quoi. Tout un chacun peut le constater sur ses écrans de télévision et de téléphone. Voulant doter les États-Unis d'un système... Bref. Trump adore l'or, super, ok. Voilà, on s'en fout. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est que le métal précieux a pulvérisé tous ses records l'an dernier. Voilà, une hausse de 70% en un an. C'est possible, ça ? Non, c'est pas possible, ça. Depuis son arrivée à la Maison Blanche. Bah, il est là depuis un an. 70% ? En un an ? Ah ouais. Il faut remonter à 79 pour retrouver une envolée aussi vertigineuse. Le métal jaune avait réagi au deuxième choc pétrolier de la décennie 70, choc consécutif à la révolution iranienne, tiens donc, et à l'instauration de l'État islamique à Téhéran. Et puis après, l'or qui est un placement refuge, qui, sauf crise internationale hyper violente, ne connaît pas des variations très très fortes. C'est vrai que tu regardes la courbe de l'or au fil des décennies, en fait c'est très flat, ça monte, mais ça monte tout doucement, quoi. Donc là, on est vraiment dans un truc un peu zarbi, quoi. Voilà. Cette nouvelle ruée sur l'or concerne aujourd'hui à la fois les États, les épargnants, les uns et les autres, ayant de bonnes raisons de se protéger de la bordélisation du monde en achetant du métal jaune. Pour leur part, les banques centrales des pays émergents principalement, Chine, Inde, Turquie notamment, jugent plus sûr de constituer des réserves financières en or plutôt qu'en bons du trésor américain. Dont personne ne sait s'ils ne seront pas confisqués un jour. Avec Trump, on ne sait jamais. La banque russe, par exemple, la Banque centrale de Russie, a commencé à accélérer ses achats d'or dès 2014 et l'invasion de la Crimée. Et les sanctions prononcées par les pays du G7 à l'encontre de Moscou au lendemain de l'invasion de l'Ukraine ont fait école. Ah ouais ! Ça n'achète plus du bon du trésor américain, parce que quand on est un pays un petit peu spécial comme ça, on a peur de se prendre des sanctions, alors que l'or, une fois que tu l'as dans ton coffre... Malinx, le lynx. Donc il y a ça déjà, dans certains pays. Okay. Et donc effectivement, comme certains disaient dans le chat, la hausse du cours, elle est notamment expliquée par le fait qu'il y a des achats massifs d'or par les banques centrales des pays. L'appétit des banques centrales est devenu structurel et il ne devrait pas se calmer de sitôt, donc ça devrait se poursuivre. Pour cette raison, le panel des 11 analystes interrogés au début de l'année de l'hiver par le Financial Times prévoit en moyenne une nouvelle hausse de 7% en 2026. Voilà. Nous restons optimistes sur l'or car les banques centrales chinoises et d'autres pays émergents encore sous-pondérés en métal jaune cherchent à se couvrir contre les risques géopolitiques ou de sanctions en diversifiant leurs réserves. Voilà. Bah, c'est simple. Voilà. Alors ça c'est pour les États, les banques centrales. Pourquoi les investisseurs privés, les épargnants achètent de l'or ? La flambée de l'or... Levez la main, hein, ceux qui ont des lingots là, dans la cuisine, là, on vous connaît. Hein. La flambée de l'or obéit pour ces acteurs-là à d'autres motivations. Hein, se protéger contre les incertitudes multiples et les risques d'inflation liés aux tarifs douaniers des États-Unis. D'autant que la Fed pourrait malgré tout abaisser ses taux d'intérêt sous la pression de la Maison Blanche. Et l'or peut être considéré classiquement comme une valeur refuge. Tu as oublié de lever la main, Samuel, dit cette Tsubasa. Voilà. Alors normalement, c'est ça qui est étrange. Normalement, l'or et les métaux précieux sont des valeurs refuges, peu recherchées quand les marchés boursiers s'envolent. Sauf que là, on a un truc qui ne devrait pas se produire. On a des marchés boursiers qui explosent.
Le CAC 40 à Paris vient de battre un record historique, 8000, je ne sais pas combien. Voilà. Et malgré tout, les actions montent et l'or monte aussi. Alors que normalement, ce n'est pas le cas, c'est l'un ou l'autre. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. La flambée de l'or est concomitante avec l'explosion des actions des entreprises technologiques, notamment les entreprises techno, là, les GAFAM. D'où l'avertissement de la BRI à Bâle. La ruée sur l'or, c'est pas la BRI, c'est une autre BRI, hein, manifestement. Ça va être banque quelque chose. Sinon on part sur autre chose là. La ruée sur l'or peut s'interpréter comme un signe de la fragilité, d'une méfiance accrue des investisseurs vis-à-vis des actifs spéculatifs. Autrement dit, une bulle peut en cacher une autre et les deux risquent d'éclater. Ah, t'as des gars qui disent il y a une bulle sur les actions. Sugar me dit banque des règlements internationaux. Il y a une bulle sur les actions et il y a peut-être même une bulle sur l'or en même temps. Je vois des professionnels dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie là, dans le chat qui me disent que du coup, ça, pour les professionnels, ça pose problème aussi parce que l'or coûte de plus en plus cher. Quoi. Le temps est révolu, en tout cas, où les Américains pouvaient dire du billet vert, du dollar, qu'il est as good as gold. Hein, parce qu'en fait, la faiblesse du dollar renforce aussi le fait que ça achète de l'or. Quoi. C'était une vérité inscrite dans les traités internationaux. Le système international du Gold Exchange Standard, donc c'est mis en place à Bretton Woods en 1944, qui stipulait que seul le dollar américain était convertible à l'or. Hein, ordre monétaire qui vola en éclat en 1971, quand Nixon décide de mettre fin à cette convertibilité entre dollar et l'or. Je pensais que vous étiez pour le peuple entier riche, bande d'hypocrites, les gauchistes. Hein, vous faites comme les riches de droite, en fait. Bleed. Non, mais ça y est, maintenant, on fait tomber les masques ici. Hein. Ici, c'est un chat de... C'est même pas de droitard. C'est de goldard. Hein. Ici, on est goldé, ici. Voilà. Ici, c'est gold, gold, gold. On a des goldards ici. Ici, c'est gold partout. C'est gold dans la cuisine. C'est gold dans le coffre. C'est gold dans les armoires. C'est gold dans la douche aussi. Le fameux golden shower. Suite de l'article. Alors, question, le dollar est très faible donc. Se pourrait-il que l'or, qui ne joue officiellement plus aucun rôle monétaire dans les relations financières internationales, en vienne à détrôner le dollar? De facto, les banques centrales continuent d'en accumuler dans leur bilan pour deux raisons essentielles, souveraineté politique et absence de risque de défaut. Ah bah, et l'or, ouais. Et au fur et à mesure que le prix de l'or s'envole, ses réserves en métal s'apprécient, elles s'élèvent désormais à 5200 milliards de dollars pour l'ensemble des banques centrales. À peine moins que les réserves en bons du Trésor américain, 7400 milliards. L'or, cette relique barbare, prétendait John Keynes, l'économiste. Voilà, il n'avait pas imaginé que la barbarie reviendrait un jour. Voilà pourquoi l'or est aussi haut. Quoi. Voilà. Volonté de se préserver contre les affres géopolitiques. Certains pays qui ont très peur tout à un moment de recevoir les sanctions internationales et de se voir saisir, par exemple, leur bon du Trésor. Voilà, et ça prend de l'or. Les banques centrales qui, prenant acte de la faiblesse du dollar, se disent « Attends, nous, on veut un truc qui ne bouge pas. » Voilà. Merci, Walid Trout, pour ton message. Et du coup, ben, les particuliers suivent aussi, et certains alléchés par la hausse du cours de l'or, quoi. Pour les gens qui ont acheté de l'or il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est vrai que ça fait... Il y a petite culbute, quoi. Alors après, est-ce que c'est une bulle ou pas? Ça, je ne suis pas Madame Irma. Hein. Voilà. Je vous lis un petit peu. Et puis on enchaîne. Tous mes bijoux sont en argent quelconque. Alors pas du tout, Johan, parce que le cours de l'argent a encore plus explosé récemment que celui de l'or. Zoram, toutes mes dents sont en or. Bah Zoram, tu ne le sais pas, mais t'es très riche. Salut Naoten. À chaque fois, on parle de bulle comme pour l'IA, mais en fait, c'est quoi une bulle? Une bulle, Démoclès, c'est un truc qui explose. C'est-à-dire une bulle en matière financière. Une bulle en matière financière, c'est le cours de quelque chose, une action tech par exemple, de l'or ou n'importe quoi, et qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, pour des raisons qui ne seraient pas rationnelles et qui à un moment, plouc, explose. Ouais, voilà. Une sorte d'effet de mode, comme dit Dimay. Ah, Blit 83 qui nous régale. Ah ouais, une belle bande d'hypocrites, ces gauchistes anticapitalistes. Laisse ça acheter des trucs d'action entreprise capitaliste. Alors, Blit, tu nous fais rire, hein, c'est pas le problème. Moi, j'aime le divertissement, mais fais un effort sur l'orthographe et la grammaire, c'est illisible. Tu es obligé de te tra... Heureusement que je traduis en temps réel ce que tu écris, parce que phonétiquement, ça a un sens. Mais il faut vraiment deviner, hein, parfois, les mots, la conjugaison, tout ça, fais un effort. Être, avoir, tout ça. Il n'y a pas école là aujourd'hui? Si, c'est lundi, non? Non, mais il y a école, non? Allez, sujet suivant, la baisse de la consommation d'alcool en France. Enfin, manifestement, si j'en juge par certains messages, pas pour tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, et du coup, article dans les Échos, les producteurs d'alcool, ils cherchent à se diversifier et à proposer des produits sans alcool maintenant. Face à la désaffection pour l'alcool, les producteurs cherchent la parade. Voilà. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'en France, on boit de moins en moins d'alcool. En 60 ans, la consommation de boissons alcoolisées a fondu de 60%. Non, ce n'est pas de la dyslexie. Moi, je connais la dyslexie parce que les proches sont touchés. Je peux vous dire qu'on n'est pas sur la dyslexie, là. On est plus sur un problème qui est plus global, quoi. En 60 ans, la consommation des boissons alcoolisées a fondu de 60%. 60% de baisse de la consommation d'alcool en France. Voilà. Les alternatives sans alcool ne progressent que lentement. Mais on se drogue de plus en plus, Zanita. J'aimerais te dire que c'est faux. Mais c'est vrai, on sait que la cocaïne, par exemple, la consommation de cocaïne explose en France. Donc, je ne peux pas te donner tort. Mais d'accord, on va pas faire que se lamenter, on va se réjouir quand même de la baisse de la consommation d'alcool. Voilà. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ben, il y a des alternatives qui sont de plus en plus de sans alcool, quoi. Après les fêtes et leurs traditionnels excès, pour ceux qui ont fait la fête, hein, parce qu'ici, c'est très calme. Hein. L'heure est à la sobriété. Depuis plusieurs années, de nombreux Français participent au défi de janvier, le Dry January, qui consiste à ne pas toucher une seule goutte d'alcool durant le premier mois de l'année. Derrière ce rendez-vous, c'est tout le monde du vin et des spiritueux, avec le succès grandissant du Dry January, qui est bouleversé. Hein, il y a aussi un secteur économique derrière, par une désaffection croissante des consommateurs pour des boissons alcoolisées. Voilà. Selon les associations qui soutiennent cette initiative, 4,5 millions de Français et Françaises ont participé ces dernières années. Voilà. Et donc, effectivement, il n'y a pas que le Dry January, il y a une baisse tendancielle sur le long terme de consommation d'alcool en France, mais le succès du Dry January en est une illustration, quoi. C'est marrant quand même, cette faculté à relever uniquement les avis de droite qui sont bourrés de fautes d'orthographe peut être une manière détournée de décrédibiliser un avis qui ne plaît pas, dit Vanilla Kush. Alors pour le coup, c'était un avis de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas de problème de dyslexie, mais le problème est ailleurs, manifestement. Je continue. Donc, la modération, tendance de fond. Mais j'aime bien, moi je me régale ce matin. La consommation d'alcool baisse en France, mais en revanche, là on se régale, hein. Donc, la consommation d'alcool recule en France. Selon les dernières données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les volumes d'alcool pur mis en vente ont de nouveau diminué en 2024. Ça continue. Moins 5,8%. En 60 ans, la consommation de boissons alcoolisées a fondu de 60%, ce qui est énorme. Si la baisse est générale, le cas des jeunes est particulièrement évocateur, puisque déterminant pour l'avenir, les jeunes boivent de moins en moins. Vous allez me dire que bon, il y a aussi la drogue, mais là on est sur l'alcool. Chez ceux-ci, la consommation de cotinée d'alcool a laissé place à des usages plus ponctuels, mais aussi en des qualités, en des quantités plus importantes, dans des contextes effectifs. Bon, ça, c'est le binge drinking, mais ça, c'est pas très très nouveau, quoi. Plus globalement, c'est le vin qui connaît la plus grande désaffection, moins 52%. La consommation moyenne par an et par français de vin est passée de 127 litres en 1960 à 40 litres par an. 1960, 127 litres par an. Je pense que ça comprenait les enfants, c'est en par français, je crois. Ouais. Depuis 2018, la bière dépasse les spiritueux en volume vendu. Voilà. Là, qu'on voit sur ce graphisme, donc c'est vraiment le vin, là, c'est la deuxième courbe qui baisse le plus, un peu les spiritueux, et la bière, depuis 2000, t'as même une légère augmentation. Bon, à l'époque, c'était années 60, t'avais des pubs pour l'alcool, pour le vin, qui disaient que c'était bon pour la santé, quoi. Alors, cette déprime de l'alcool dans les verres des Français rime avec déprime pour les entreprises du secteur, bien sûr. Une dizaine d'années après avoir fait son entrée dans le vin, la coopérative française Invivo a annoncé il y a quelques jours entrer en négociation exclusive pour une revente de son pôle viticole. Alors du coup, les entreprises essayent de s'adapter. Hein. La maison mère de Soufflet, leader mondial de la production de malt hein, pour la bière, a annoncé vouloir développer des alternatives au café et au cacao en utilisant la même matière première. Un nouveau débouché alors que les cours du cacao et du café se sont envolés ces dernières années. Forcément, les producteurs de boissons alcoolisées cherchent la parole en investissant dans les alternatives sans alcool. Après une forte croissance de l'ordre de 15-20% durant la période Covid, la progression est revenue à environ 5% par an, ce qui reste une croissance importante. Un rythme soutenu, mais loin d'être en mesure de compenser les pertes. Donc là, après, il y a un focus sur les bières sans alcool. Alors, ce qui est plus nouveau, c'est les spiritueux aussi sans alcool. Vous avez des marques connues de spiritueux, d'alcool fort, qui sortent des équivalents désalcoolisés, quoi. Quant au vin, la bascule, justement, est très difficile, faute de moyens techniques de désalcoolisation rentable, parce que c'est un processus onéreux. On ne fait pas du soda, hein, on fait pas du jus de fruits. Ce sont des boissons alcoolisées qui sont désalcoolisées et ça a un coût en fait parce que l'idée c'est de garder d'essayer de garder l'essentiel du goût en fait. Mais le marché n'est que balbutiant. Selon un récent sondage, explique Les Échos, plus de la moitié des Français déclarent avoir un intérêt pour ce type de produit. Hein. Vin sans alcool égale jus de raisin. Ben non, justement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à peine plus d'un dixième des répondants disent avoir déjà consommé du vin pétillant sans alcool, 13%, ou du vin tranquille sans alcool, 12%. Le chemin est encore long. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, parce que je bois plus d'alcool, mais je bois pas non plus d'ex-boissons alcoolisées sans alcool. Quoi. Sondage dans le chat. Est-ce que vous buvez de l'alcool tous les jours? 3%. Plusieurs fois par semaine, 11%. Plusieurs fois par mois, 28%. C'est pas beaucoup. Hein. Quelques fois par an, 34%. Jamais 24%. Entre les quelques fois par an et le jamais, on est sur du 50, du 60%. Vous avez un sondage là. Il est intéressant ce sondage. Merci au Modo d'avoir lancé ce sondage. Merci beaucoup. C'est vrai que le problème des alternatives sans alcool, notamment les spiritueux sans alcool, moi je commence à voir des spiritueux sans alcool proposés dans des restaurants, hein. C'est souvent vendu très cher, hein. C'est souvent vendu très cher. J'en ai à la maison, me dit que la ma coquine, et c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est cool. Pour avoir goûté du gin sans alcool, c'est très intéressant et rafraîchissant, je conseille vraiment de tester. Ça dépend de la marque, hein, bien sûr. Hein. Ok. Excusez-moi, je suis en train de vous lire. J'en ai acheté pour Noël, c'était un énorme flop, me dit Alcoolab. C'est cool, c'est drôle maintenant de ne pas boire d'alcool. Alors, c'est cool, c'est drôle, Blitz, c'est drôle que maintenant ne pas boire d'alcool soit cool. Non, c'est pas drôle, c'est bien. Moi qui ai beaucoup picolé, je trouve très très bien. L'alcool, c'est pas cool? Vous avez la rêve de l'alcool, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool! L'alcool, c'est pas cool! Vous avez la rêve ou pas? Je pense que t'as. L'alcool, c'est pas cool! L'alcool, c'est pas cool! Alors qu'il y a cool dedans! Vous avez la rêve ou pas? C'est génial! L'alcool, c'est pas cool! Alors qu'il y a cool dedans! Vous avez la rêve? C'est mythique, c'est mythique. C'est mythique.
C'est pas cool, les gars, vous avez fait de l'alcool.
Quel bonheur! Quel bonheur! Allez, un petit plaisir. Le flambeau, effectivement, Cadmeyrade, let's go. On se met du son. Quel bonheur.
Alors que nous, on crève la dalle!
Attends, je vous la mets. Attendez, je vous la mets. Hop. Le son, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas la ref. L'alcool, c'est pas cool, l'alcool. Un classique, un classique, un classique, une masterclass. Ah, quel bonheur. Champi, je travaille dans le milieu brassicole et de plus en plus de gens, moi y compris, consomment ou proposent des boissons sans alcool, soft ou bière. Et même la tendance globale des bières est à une baisse du degré d'alcool. Cette tendance va clairement dans le sens de l'article que tu cites, Samuel, je le vois tous les jours ou presque. Oui, et en vrai c'est bien. En vrai, c'est bien. Pour la santé des gens, pour la santé de moins boire. Hein. Je ne vais pas l'interdire totalement, mais de moins boire, et même pour la société, parce que ça a un coût, bien sûr. Vous avez certains restaurants gastronomiques qui commencent à. Ils sont pas, c'est quelques-uns, hein. Vous avez quelques restaurants gastronomiques qui offrent maintenant qui proposent une carte sans alcool. En gastro, hein, avec des équivalents sans alcool, quoi. Est-ce qu'il y a une baisse en Angleterre? Alors, Chucky Max, je ne voudrais pas te répondre trop vite. Je ne veux pas répondre trop vite, mais j'ai vu une excuse, un article il n'y a pas longtemps qui disait que ça baissait pas tant que ça en Grande-Bretagne et. Qu'il y avait des souhaits du gouvernement de bosser là-dessus, mais que les pubs étaient vent debout, parce que les pubs, c'est une institution en Grande-Bretagne, en disant, mais vous allez nous casser, quoi. Vous allez casser les pubs, quoi. Donc, j'ai pas l'article sous les yeux, mais je l'ai lu il y a quelques jours. Ouais. Non, pas les PUBG, hein. Ça, on continue ça. C'est les pubs. Allez, un peu de football. Ça n'est pas souvent sur cette chaîne, hein. Tu foutes. À profiter, hein. Parce que là, voilà. Pas un mot sur cette chaîne. Pas un article sur la Coupe d'Afrique des Nations depuis le début des compétitions. Pas un mot. Le mec n'y connaît rien. Hein. Si, alors oui, quand je présentais le JT, je donnais les résultats des matchs, quoi. Mais, vous venez pas ici pour le foot, c'est sûr. Mais à un moment, il y a quand même... Moi, je respecte les passions des gens. Et il y a plein de gens qui sont passionnés par le football. Il y a plein de gens qui suivent cette CAN. Je suis sûr que c'est passionnant. Donc je me suis dit, à un moment, Samuel, il faut que tu parles de la CAN, hein, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, on est au demi-finale, en plus. Donc, voilà. Et j'ai un article, merci l'humanité. J'ai 2 pages dans l'Huma sur la CAN. Hein. 3e compétition la plus suivie au monde. Voilà. À l'approche des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, un auteur et journaliste s'appelle Charles Moukouri, qui est un grand connaisseur du ballon rond africain, qui revient pour l'humanité sur cette 35e édition. 35e édition qui est au Maroc. Le Maroc qui est toujours en demi d'ailleurs, qui est toujours en qualifié. Alors, c'est un journaliste qui est franco-camerounais, voilà, et il livre son regard sur cette Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc. Quel bilan faites-vous de cette CAN jusque-là ? Tous les favoris attendus sont bel et bien présents dans la dernière ligne droite. Ça, c'est bien, ça. Il n'y a pas eu de grande surprise. La hiérarchie a été respectée au fil du tournoi. Le dernier carré ne souffre aucune contestation. Le Sénégal, qu'on attendait. L'Égypte, toujours présente. Le Maroc, pays organisateur, demi-finaliste à la Coupe du Monde. Hein. Ah, quand même. Qui avait choqué le Maroc. Hein. Parfaitement à sa place. Et le Nigeria. La puissance régulière du continent, une des valeurs les plus sûres de ces 20 dernières années. Vous m'avez rappelé que c'est le Nigeria qui a sorti l'Algérie, je crois, hein, récemment. Mais à la périphérie, il y avait aussi le Cameroun et l'Algérie, mais les deux équipes sont en reconstruction et n'avaient pas les moyens d'aller plus loin. D'autant que le Cameroun, en plus, a changé d'entraîneur à seulement 20 jours de la CAN. La Côte d'Ivoire tenante du titre s'est arrêtée en quart face à l'Égypte. Voilà. Depuis le triplé des Égyptiens 2006, 2008, 2010, aucune Égypte n'est parvenue à conserver sa couronne ces 15 dernières années. Qu'est-ce que ça traduit, hein? Et il répond, la Côte d'Ivoire avait une belle équipe, solide, complémentaire. Elle était partie pour pourquoi pas rééditer l'exploit. Elle avait les moyens, mais elle a été battue par le réalisme froid des Égyptiens. J'aime bien, c'est vraiment le on est dans le champ sémantique du football, là. Oh bah dis donc, ça y est, Shuga, il a perdu son sang-froid. T'en pouvais plus. Pourtant, il était drôle, l'autre. Ah, pardon. Donc là, hein, le réalisme froid des Égyptiens. Toujours aussi redoutable en quelques actions. Ah, c'est la vanne raciste. Ah ouais, la vanne raciste de trop. Ah, tu m'étonnes. La défaite de la Côte d'Ivoire obéit un peu à une nouvelle règle qui s'installe, celle d'un nivellement vers le haut, c'est-à-dire que les meilleurs se neutralisent. Aucune formation n'arrive à asseoir sa domination et ça va être compliqué de le refaire, même si je pense que l'Égypte en a les moyens. Quel regard portez-vous sur la première demi-finale qui oppose mercredi, ok, le Sénégal à l'Égypte? Cette demi-finale est un classique, c'est l'affrontement à distance entre deux frères, Sadio Mané et Mohamed Salah, deux joueurs qui ont porté les couleurs de Liverpool. Je ne comprends pas un traître mot de ce que je lis, hein. Qui étaient vraiment des complices sur le terrain. En finale de la CAN 2021, je comprends rien. Ok, je ne comprends pas. Vous, oui, hein. Moi, non. L'autre demi-finale, entre le Maroc et le Nigeria, belle opposition. Alors, moi, je suis pour le Maroc, moi. J'y connais rien, mais je suis pour le Maroc. J'aime bien le Maroc. Parce que le Maroc, en plus d'être à domicile avec un public qui va le porter à bout de bras, a vu son équipe monter en puissance. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, ça, je me souviens bien, ça. Qui a sorti les Marocains au Mondial? C'est pas nous? C'est pas la France? C'est ça, hein? Ah là 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 là! Ah là 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 là! Les Lions de l'Atlas ont gardé le même entraîneur, la même ossature, possèdent désormais une expérience des rencontres de très haut niveau qui leur permet de résister à la pression. Vous avez vu, hein, je connais mon foot, hein. De ce côté, le Nigeria, c'est la mitraillette de cette CAN. Avec la meilleure attaque, 14 buts inscrits, et ses deux stars, Victor Osimhen et Ademola
Lookman. On comprend d'ailleurs pas très bien comment cette équipe n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Là, il parle du Nigeria. La question est de savoir si le Nigeria pourra supporter l'intensité, la pression incessante que vont mettre les Marocains. Ça va être une bataille tactique. Ah, si je devais faire un pronostic, je pense qu'on se dirige vers une finale Maroc-Sénégal, dit-il. Ok. Je comprends pas. Ça change, ça ? À la veille de la CAN, la Confédération africaine a annoncé que l'épreuve se jouera désormais tous les 4 ans à partir de 2028. Pourquoi c'est tous les combien, la CAN ? Comme le mondial, quoi. Et lui, c'est une catastrophe. Parce que la CAN, c'était plus souvent ? Tous les deux ans ? Vous êtes fort. Parce que la CAN, c'est une fête entre les différents peuples africains autour du foot. Sur ce continent, c'est comme au Brésil, le foot est une religion. C'est terrible parce que la CAN, c'est une fierté pour les Africains. D'accord, ça passe à 4 ans. Elle est née en Afrique par les Africains, n'a pas été un fait colonial imposé par les puissances étrangères, comme beaucoup de choses sur le continent. Les Africains sont très fiers d'avoir pris cette initiative et de l'avoir fait grandir à tel point qu'elle est reconnue mondialement et qui est devenue la troisième compétition de football suivie au monde avant la Copa América. Donc t'as genre le mondial, la Ligue des Champions et la CAN, quoi. D'accord. Il est dommage que cela se fasse sans respecter cet héritage sous la pression des grands clubs européens qui veulent de moins en moins libérer leurs joueurs africains pour disputer la CAN. C'est intéressant ça par contre. Ok. Bon, en tout cas. Pronostic ? Qui va gagner la CAN ? Ah non, désolé, la Copa c'est italien. Joli, c'est validé. Qui va gagner la CAN ? Le Maroc ? Sifreguir ? La France ? Dit Ultracore qui s'y connaît comme moi. Un pays africain, dit Oweli. Le Maroc, Soltad. Le Sénégal, le Nigeria. Le Groenland. Oh. La CAN, c'est pour la pêche cette année ? Oh là. Non, trop, non, je valide pas. C'est trop. Et, bon, je voulais terminer à 12h30. Ouais, bon, je me dépêche. Un petit plaisir. Qu'est-ce qui m'a pris ? Ce matin, je me suis dit que j'allais vous parler de sumo. À quel moment Samuel Etienne, dans cette revue de presse qu'il présente depuis 5 ans sur Twitch, s'est dit « Je vais parler avec ma communauté de la nouvelle saison de sumo qui commence au Japon. » En juin prochain, d'ailleurs, les meilleurs lutteurs du monde de sumo vont s'affronter à Paris, voilà, et à 10 000 km de la capitale, là, au Japon, début de la nouvelle saison. Voilà. Et l'article, je l'ai trouvé passionnant, en vrai. Samuel Goto, envoyé spécial au Japon. C'est marrant, les Samuel, ils ont une histoire avec le Japon. C'est drôle, comme par hasard. Le journaliste du Parisien qui va au Japon faire le papier, il s'appelle Samuel Goto. Comme par hasard, un Samuel. Très bizarre. Et l'article est sympa. Deux colosses, une légende. 17h40, la première journée du Hatsu Basho, le tournoi de sumo qui ouvre l'année à Tokyo, où touche à sa fin. D'un côté, Ono Sato, 188 kilos. L'un des deux Yokozunas, le plus haut grade de la discipline. Il n'y en a que deux. De l'autre, Ishii Yamamoto, 157 kilos. Je me cours de proportion. Voilà. Donc lui, c'est un minus, lui. Légèrement moins bien classé. Le choc est immense. Le bruit retentissant. Deux montagnes qui se heurtent. C'est pour ça que j'étais sur les kilomètres. Parce que les mecs, c'est des géants. Le premier est toutefois bien plus solide et envoie valser son adversaire hors des limites du doyo, qui est l'air de combat. À 5 mois de leur venue à Paris, pour la première fois depuis 95. C'était pas Chirac qui était au pouvoir en 95, d'ailleurs. Les lutteurs de sumo, qu'on appelle les Rikishi au Japon, lancent leur saison ce dimanche. Au total, 6 tournois majeurs au programme, dont 3 à Tokyo. Le premier était primordial pour grimper au classement, et surtout très attendu avec 240 000 billets vendus en une heure seulement pour les 15 jours de compétition. C'est très dur d'avoir des tickets. Comme Kanako, plusieurs dizaines de personnes attendent les lutteurs pendant de longues heures dans et autour du stade.
Alors que les plus jeunes bloqués dans les tréfonds du classement combattent sur le dojo dès le matin, les stars de la discipline débarquent dans l'après-midi et défilent devant leurs fans en mode festival de Cannes, kimono sur le dos et claquettes chaussettes aux pieds. À l'applaudimètre, Oura est le grand gagnant, véritable chouchou des amateurs de sumo avec son mawashi, sa ceinture rose. Le pensionnaire de l'écurie Kize peut-être, passe rarement inaperçu. Ce premier jour est d'autant plus important pour les Japonais qu'il affronte Aonishiki, oui, la nouvelle star de la discipline. Ça, c'est notre Ukrainien, dont on a parlé tout à l'heure. Arrivé au Japon en 2022, après avoir fui la guerre dans son pays, l'Ukrainien de 21 ans fait déjà partie des 4 meilleurs Rishiki du monde. Et il le prouve sur le dojo. Eh oui. Béni la veille à l'occasion du Dojo Matsuri, une cérémonie où on enterre marron, saké, calamar séché dans la terre pour la purifier, le cercle destiné au combat est au centre de toutes les attentions. C'est vachement intéressant. Les duels s'y enchaînent avec un rituel bien établi. Le crieur, le Yobidashi, annonce les concurrents d'abord à l'est, puis à l'ouest avant que ceux-ci ne se... Avant que ceux-ci ne pénètrent... Ah oui ! Ne pénètrent... Oui. Sur la zone de combat, ouais. Pour se faire face. Parce que je voyais pas le... D'accord. Une fois sur le dojo, donc, les deux hommes commencent par enchaîner les shikos en levant une jambe avant de la claquer violemment sur le sol, comme ça, tchikous, hein, vous connaissez. Je reste réalisé des centaines de fois l'entraînement pour se muscler les cuisses, mais aussi en tournoi pour chasser les mauvais esprits. Hein, je vous le fais pas là, mais vous voyez, comme ça, là. Hein, vous connaissez. Ensuite, ils jettent du sel pour bénir l'art de combat avant de se plonger dans leur concentration. Cérémonial souvent bien plus long que le duel lui-même qui peut parfois durer quelques secondes. Tu veux pas nous montrer ? Non. Au-delà d'être un sport particulièrement éprouvant et parfois violent, le sumo est avant tout une prière, un rituel shinto. Voilà. C'est vraiment une fusion très intéressante entre le sportif et la tradition, estime Kazuo, qui est un passionné de sumo depuis plus de 50 ans. Le sumo a une histoire de plusieurs centaines d'années, c'est un art traditionnel qu'on présentait aux empereurs. Je ne connais rien, moi. Les 12 000 spectateurs se délectent de ce spectacle et redoublent d'applaudissements quand l'affrontement s'allonge, lorsque les lutteurs s'essoufflent. Fan de Koto Sakura pour son joli sourire, une jeune femme espère le voir décrocher le trophée. Il devra pour cela présenter le meilleur bilan au terme de ses 15 combats en autant de jours. C'est quand même le seul sport où il est précisé dans les règles qu'on peut être disqualifié pour un burn-out. T'as une petite burn qui sort du truc là ? T'es disqualifié ? Ah, c'est Rikishi. J'ai dit Rishiki. Rishiki, ça veut dire autre chose ? D'accord. Ok. J'ai encore une connerie, quoi. Merci, The Big Lebowskar. Salut, Moulbit, bon ski. Ah, c'est marrant parce que on parle d'un burn-out et il y a Moulbit qui nous quitte. C'est normal. Alors, il y a Vanilla qui voudrait pas jouer les tristes cires, mais qui nous dit attention quand même, la tradition n'excuse pas tout. Les sumo vivent en moyenne 15 à 20 ans de moins que le reste de la population japonaise. Leur régime est une véritable catastrophe sanitaire. Il faudrait évidemment l'interdire, mais je pense que le Japon mettra du temps avant d'accepter tout cela. C'est pas inintéressant, hein. Merci Vanilla. Ah oui, Samuel le Goldar sponsorisé par l'armée. Oui, je me demande comment on y échappait celle-ci. Ah oui, carrément, il y a Bandef. Ah oui, mais... Oh, c'est une vanne. Non, ah non, vous croyez que c'est... vous pensez pas que c'était une vanne ? Deux messages. Non, vous pensez pas que c'était une vanne ? Le gars, il a dit deux messages. C'est un contournement de ban ou parce que là c'est, ça a été radical quand même. C'est quoi la blague? La sponsor service militaire. Parce qu'il y avait une pub. Et Samuel le Goldar sponsor par l'armée. Oh, c'était une vanne, non? Non. On lui donne une deuxième chance. Hein? Allez, on lui donne une deuxième chance. Let's go. C'est de la vanne, ça. Allez. Ça y est, t'es unban. C'est une vanne. Mais oui. Allez. Tout le monde sait que c'est un goldard, le Samuel Etienne. Et un militariste. Et un gauchiste. Et un soutien de l'extrême droite. Et de l'extrême gauche. Et un macroniste. Et un féministe. Et un masculiniste. Ça dépend. Ça dépend à quel moment vous ouvrez Twitter. Merci pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Merci à vous qui a été en direct avec moi. Merci à ceux qui nous écouteront en replay sur YouTube. Merci à ceux qui nous consomment un podcast audio à partir de 15-16 heures tous les jours. Voilà. C'est un plaisir. On va faire un raid. Moi, j'ai un Teams là, pas longtemps. Et puis, j'enchaîne tout l'après-midi. Alors, les prochains rendez-vous. Demain matin, revue de presse. Demain matin, revue de presse avec à la fin... Vers 11h, on aura une médecin qui nous parlera de l'importance des gestes barrières contre les virus. Là, parce que les gars, il faut faire attention un petit peu. Là. Il va falloir se laver les mains un petit peu. Hein. Je vous préviens, si demain matin, il y en a qui ne sont pas lavés les mains avant la presse, ça va chier. Hein. Là, il y aura du bandef. Hein. Voilà. Donc demain, on fait ça, mais il y aura la revue de presse avant. Mercredi, revue de presse. Jeudi, revue de presse, 14h. MVP en direct de la maison de la radio, spécial métier du journalisme et des médias. Avec, en direct donc, de la maison de la radio, à l'occasion de Médias en scène. Et puis vendredi, revue de presse, et 14h, stream IRL, 8 invités, Grand Palais à Paris, exposition 200 ans du Figaro. Let's go! Voilà. Donc on va bosser cette semaine, et puis évidemment aussi un raid tout de suite. Qui est en live? Il y en a du monde, hein? Ouais. Mais oui. Mesdames et messieurs. Attends, Noctali t'enlève? Je l'ai pas en live, moi. Noctali en live? Je l'ai pas, hein. Noctali, en live. Elle est pas en live. Par contre, mesdames et messieurs, on va rester avec la team de Five Stack. Noctali, t'aurais été en live, il y aurait eu raid. Mais il y a Madame Guesmer qui est en live. Et Madame Guesmer, c'est une membre de la team, c'est une membre de la Five Stack. C'est une vieweuse, c'est une modératrice, voilà, et elle stream du Valo, voilà. Et on va la raid, voilà. Donc, let's go, c'est parti. On reste dans notre petit univers. Je me demande, c'est peut-être mon premier ou mon deuxième raid seulement vers Madame Guesmer. Ben oui, elle est modératrice, Madame Guesmer. Ah non, je ne l'ai pas mis modératrice, elle est VIP, pardon, je l'ai passé VIP. Oh, je confonds. La vieillesse. Là, elle est à l'Audin, là. Non, c'est elle qui est à l'Audin ? Ouais. Bon, allez, on y va. Non, elle n'est pas modératrice, elle est VIP. Immense joueuse hein, de Valo. Les amis, des bisous et je vous dis à... Demain matin, il y a un monde où... J'essaie de streamer du gaming ce soir, mais il y a beaucoup de taf en ce moment, donc je ferai au mieux... Je vous dis à très vite et merci d'avoir été avec moi ce matin. Ciao.